Une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Dom Plante. Il n'est pas ici aujourd'hui parce que nos horaires sont comme ça des fois. On est là maintenant que je suis à Québec, c'est plus difficile de passer beaucoup de temps ensemble au studio. Fait que quand on est ensemble, on essaie de cramer beaucoup de temps. On essaie de banker des épisodes. Puis là, ben ça donne que Dom est parti. Moi, je suis encore au studio. Puis je fais l'intro pour l'épisode que vous écoutez aujourd'hui, qui est le Best of 2023. Fidèle à nos traditions, on a décidé de vous présenter nos coups de cœur, nos épisodes coups de cœur de la saison, de l'année. La saison, on dirait que j'étais à Radio-Canada. Nos best-of de l'année, l'année 2023 qui a été une année qui est partie dans toutes les directions. Une année où est-ce qu'on a continué la ligne directrice du sans-fil, c'est-à-dire recevoir qui on veut pour parler de ce qu'on veut. Qui est ça depuis le début, puis qui est surtout ça depuis plus dernièrement. Les deux dernières années, je dirais, qui ont pris vraiment un tournant de... Il n'y a pas de compromis sur les invités qu'on reçoit, dans le sens où on essaie même pas de... on regarde plus vraiment les chiffres, on veut juste s'assurer de recevoir des gens qu'on aime et avec qui on veut parler ou de sujets avec desquels on veut discuter. Bref, on donne chacun deux de nos coups de cœur et ensuite on invite Nicole, que vous connaissez très bien, et Mathilde, qui a rejoint l'équipe cette année, à nous donner, eux, leur coup de cœur sur l'année de podcast. Fait que, écoutez, bonne écoute, puis bonne année, surtout. Bonne année, du succès dans vos études, puis tout. Salut tout le monde, bienvenue, Feliz Navidad.
Oui, oh yes. Feliz Navidad tout le monde.
Notre traditionnel best-of.
Ouais, qu'on sort tout le temps dans le temps des fêtes, là, vers la fin de l'année, là, quand on fait une petite rétrospective de nos meilleurs épisodes de l'année. Donc bienvenue, bonne année à tous.
Bonne année à tous, je pense que ça va sortir le 2 janvier, si je me rappelle bien, notre horaire de sortie. Avant qu'on tombe dans le best-of, j'ai un échauffement. Je veux voir à quel point...
Échauffons-nous.
Tu sais, là, on chill moins ensemble qu'on chillait au secondaire ou quand on habitait les deux à Québec, là, parce que par la force des choses. Fait que, tu sais, quand on passait vraiment beaucoup de temps ensemble, des fois, on pensait la même chose exactement en même temps. Fait que là, on va voir à quel point on est encore ou non sur la même longueur d'onde, okay. Si je te connais bien, dans le fond.
OK.
Fait que là, je vais t'expliquer un peu le jeu. Okay, j'ai vu ça dans... C'est un podcast de Jake and Amir qui ont...
OK.
Qui ont fait ça.
OK, c'est un jeu.
C'est un jeu, c'est un jeu.
OK.
Fait que dans le fond, juste pour mettre on va travailler avec une échelle de 1 à 10, OK?
OK.
Puis, juste pour mettre au clair, mettons, 1 c'est quoi, puis 10 c'est quoi, puis après ça, essayer de voir un peu la différence entre les nuances. Tu vas comprendre pourquoi je dis tout ça tantôt. Ça, à la maison, vous pouvez jouer avec nous autres en même temps. Vous garderez ça dans votre tête pour la prochaine fois que vous faites Québec-Montréal. 1, c'est genre Yummy de Justin Bieber. Tu sais, fait comme le plus piece of shit des piece of shit en termes de qualité. Genre, il n'y a rien là-dedans que moi je trouve intéressant. Puis là, c'est ma perception à moi. Il n'y a rien là-dedans.
Toi, Yummy, c'est un 1.
Quand je l'écoute, je ferme ça. Genre.
Ouais.
Puis, mettons, Lost in Translation, le film, c'est un 10 pour moi. C'est-à-dire que je l'écoute une à deux fois par année. Puis quand je l'écoute, je check pas mon sel. Puis je suis vraiment concentré. Puis je le trouve aussi bon que la première fois. OK.
Fait que là, pour voir si on a des goûts similaires...
Tu vas voir c'est quoi le jeu, okay? Où est-ce que ça devient un petit peu compliqué, c'est genre 4 à 6. Tu sais, c'est quoi 4 à 6? Puis pour le définir, mettons, là, 6, c'est... Si t'écoutes, t'es chez vous dans le salon, ça joue à la télé, tu vas le regarder, puis ça va pas te faire chier de le regarder, puis tu vas peut-être même choisir de le regarder à la place d'aller faire autre chose. 5, tu vas le regarder si t'as absolument rien d'autre à faire. Tu vas être là, tu vas checker ton cell. 4... Tu vas vraiment checker ton cell si ça joue à TV, puis tu vas le regarder juste genre. C'est comme American Pie 4, genre. C'est comme, c'est vraiment pas.
Le 4.
Non, mais American Pie, point. Là. C'est genre.
Le 4?
Ben, genre, si ça joue, tu vas pas comme. Moi, je vais checker mon cell, puis je vais faire vraiment autre chose que de mettre mon attention sur American Pie, mais je vais pas me lever ou fermer la télé, tu sais. Puis là, 3, tu tombes dans le gamme, fermer la télé, puis 7 en montant, c'est comme activement, tu recherches. L'écoute de ces affaires-là. Okay?
Ouais, okay.
Fait que ça, c'est un peu le bracket. Puis là, je vais pas aller trop extensif parce que j'ai déjà pris trop de votre temps sur le best-of. Okay? Fait que là, ce que je vais te demander de faire, c'est de penser à un chiffre de 1 à 10. Peu importe lequel. Puis là,
je vais enlever mes écouteurs, je vais me boucher les oreilles, puis je vais fermer mes yeux, puis toi, tu vas chuchoter le chiffre dans le micro, puis tu vas le montrer à la caméra pour ceux qui écoutent, OK?
Faut juste que je dise un chiffre, sans savoir de
tu
quoi
parle. Pense à un chiffre. Fais juste penser à un
de
chiffre.
De 1 à 10?
Ouais, faut pas que je l'entende, OK?
Vas-y, man.
7. OK?
C'est bon?
Ouais.
OK, puis là, je vais te poser une autre question, ça sera pas les albums, là.
Ouais, ouais, OK.
OK. Fait qu'on parle d'un acteur homme en termes de comment tu le trouves attirant physiquement.
OK. OK, OK, OK. Un acteur homme, comment je le trouve attirant physiquement?
Ouais. Ça se peut qu'on coupe ce segment-là.
Ben, on va chopper dedans un peu que ce soit plus... OK, ouais, j'en ai un.
OK, vas-y.
Quoi? Qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais j'en ai un. Là, je te le dis? Je te dis c'est qui?
Oui, tu me dis c'est qui. Pour moi, il faut que je devine ton chiffre avec les réponses que tu me donnes.
C'est qui?
Qu'est-ce que tu veux savoir?
OK, Edward Norton.
Attirant physiquement, OK. Je file 7 ou 8. On va continuer. Une unité de Warcraft 3. 10 étant ton unité préférée, 1 étant la pire piece of shit.
Le chevalier, là. Le knight, là.
Le knight?
Ouais.
OK, OK. C'est bon. Un film qui fit avec ton chiffre? Le pire contenu audio de l'histoire.
T'allais dit qu'on aurait dû se préparer.
Non, mais c'est ça qui est drôle, man.
T'as un peu mal, je vais checker le top 250 et IMDB, là.
Ben là, ça veut dire que c'est quand même haut.
Non, ben pas nécessairement, des films que je trouve
c'est vrai, c'est
pas
vrai.
Bon là-dedans. Hein.
T'as raison.
OK, man, je vais dire... Je vais dire... Je vais dire The Dark Knight.
Edward Norton, les Knights, puis The Dark Knight.
Ouais.
Je sais que t'as pas capoté sur le Dark Knight comme tout le monde.
OK, mais regarde. OK, pas de Dark Knight. Disons le premier des trois, là.
Le premier, Batman Begins.
Batman Begins. Ouais, Batman Begins.
Ouais, je me rappelle que ton take sur Batman de Christopher Nolan, c'est que c'était juste comme un film de gangster avec un gars déguisé en... Un gars déguisé en chauve-souris, genre. Je me rappelle que ça, tu m'as déjà dit ça.
OK, OK, OK.
Puis que t'avais pas trouvé ça nécessairement si débile. Par contre, c'est pas nul à chier. Puis ça me surprendrait que tu trouves ça nul à chier. Comme Edward Norton, il est correct, mais c'est pas Brad Pitt. Mais en même temps, c'est pas Danny DeVito, mettons.
C'est pas Steve Buscemi.
Non, c'est ça. Puis après ça, les Knights, c'est correct, tu sais. C'est pas top. J'ai envie de dire 6. C'est-tu 6?
C'était 7.
Ah, j'hésitais entre 6 et 7.
Ton
mon premier guess,
ton premier
était
bon.
Hein. Ouais, ouais.
Pas ouais. Norton, c'est ça. Tu sais, Good Looking
Guy.
Ouais,
mais,
genre,
mais
c'est pas
toutes tes réponses font du sens. Tout à fait.
Bon, même mais. On... Batman Begins, c'est un. Bah, ouais, I guess que. C'est un 7, là. C'est un bon film.
C'est un 7, mais c'est pas mieux que ça.
C'est genre. Pas 7.2.
Non, non, non.
C'est 7,
non.
Ça fait.
C'est 7 ou 6 haut. Oh,
ouais,
6 haut ou 7 bas, là.
Ouais, ouais,
ouais. Ouais, fait que ça, j'ai joué à ça dans le char, puis ça prend du temps parce que la personne réfléchit, genre, puis là, première chose que tu sais, t'es rendu à Montréal.
Ben, c'est le genre de truc que là, tu sais, des films, j'en connais un million, mais là, genre de truc que tu blinks quand c'est le temps d'en dire un.
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais bon jeu. Tu veux-tu jouer tout aussi?
Ben, je pense qu'on a fait assez long, là, puis là, il faut quand même commencer sur le best-of parce qu'on a quelque chose à faire.
On va chopper dedans, là, parce que. C'est pas le best.
Ouais, on va choper d'un pause.
Ouais.
On a-tu le temps de jouer de l'autre sens pour voir si tu me connais bien? Non, on le fera à la fin au pire. Ouais. Si on il nous reste du temps.
Fait qu'on fait le best-of.
Le best-of. Après ça, le best-of. Je peux commencer. Puis je pense qu'on en parlait, tu sais, avec Mathilde puis Nikki avant de tourner. Puis je pense que c'est un peu un classique pour tout le monde cette année, le podcast qu'on a fait avec Fadi Dagger.
Ouais.
Qui est probablement le podcast qui a. Un des podcasts qui a le plus levé de l'année.
Ouais.
Qui a le plus de monde qui a écouté. Notre.
Plus de réaction.
De loin, notre viralité la plus grande de l'année sur
ouais.
TikTok.
Ouais, ouais. Et un extrait
qui est devenu viral.
Un extrait
viral.
Devenu légendaire, là, ouais. Viral. Là, autant sur Instagram que TikTok, là, l'extrait. On peut en parler. L'extrait.
Parlons-en.
Où est-ce qu'il parle de à quel point les appels à la police sont racistes. Là,
ouais.
Puis qu'il raconte qu'une madame appelait parce que...
Il y a des gars qui jouaient au hockey en arrière.
Il y a des gangs de rue, genre, dans ma ruelle, puis c'est genre des kids qui jouent au hockey. Là, ouais. Puis là, la police se pointe, ils sont comme genre en mode genre...
Avec la sweat.
En mode, on démantèle le cartel. Ouais. Là, finalement, c'est comme des kids qui jouent au hockey. Ça, c'était vraiment... Tu sais, avec le podcast, puis je le dis souvent, là, ça, quand je parle de ce podcast-là en particulier, puis de certains podcasts, tu sais, qui est comme... On a rencontré plein de monde à travers ce podcast-là, puis tout le monde est intéressant à sa manière.
Ouais.
Tout le monde est great, mais genre, il y a certaines personnes qui sont des personnes d'exception, là, que tu les vois, puis tu dis, genre... Ça, c'est genre une personne qui est à un autre niveau de...
Extraordinaire.
Extraordinaire, là. Ouais. Tu sais, autant dans, genre, qu'est-ce qu'elle inspire, genre, autour d'eux, tu sais, leur intelligence, leur charisme, à tous les niveaux, tu sais, mettons. Puis Fadi, ça n'est comme ça. Tu sais, la PDG de Hydro-Québec...
Sophie Brochu,
ce n'est une. Sonia Lupien, ce n'est une. T'sais. Les gens comme ça que tu rencontres puis tu fais OK.
Quelqu'un vraiment solide.
Est à un autre niveau.
Puis sa job, dans le fond, c'est une job un peu de PR. La job du chef de police de la ville de Montréal. Puis c'est pas pour rien que ces gens-là se rendent là. C'est pas pour rien que ces gens-là sont. T'sais, Sophie Brochu, c'est pas pour rien qu'il est devenu PDG d'Hydro-Québec. Puis lui, c'est pas pour rien qu'il y a ce poste-là. Il y a l'expérience derrière lui, mais aussi. Quand vient le temps de faire des apparitions publiques, il est extrêmement solide. T'sais, il était arrivé sur À Tout le monde en parle, le même épisode que Jay était là. Puis j'en parlais justement avec Jay. Puis Jay dit t'es assis là. Puis c'est comme ce gars-là attire la foule à travers des Jay du Temple, des Guy Lepage. Puis peu importe qui d'autre était là, genre c'est Fadi Daguerre qui arrive là. Puis qui attire l'attention de tout le monde. Puis qui captive tout le monde.
Puis une chose que lui. Puis je pense que les trois personnes que j'ai nommées, Sophie Brochu, Sonia Lupien, ont tout en commun, crissement aussi intéressés aux autres.
Ouais.
Tu sais, toutes ces personnes-là sont arrivées, puis genre, ils nous ont demandé nos noms, posé des questions sur comme le studio, nanana, puis genre, constamment dans le podcast, Fadi nous appelait par nos noms, TCPH.
Ça, man, c'est dumb. Ça, là, c'est quelque chose que... Parce que je me rappelle de ça, puis c'est arrivé quelques fois dans le podcast, dans l'histoire du Sans Filtre, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui retient nos noms. Puis moi, dans ma vie, ça m'arrive trop souvent
d'oublier,
de me présenter, puis que la seconde que la personne me dit son nom, je me rappelle plus de son nom, man. Puis là, je serais même plus capable de dire « Hey, j'ai parlé à Dave hier », genre, personne va... Genre, je serais même pas capable de dire son nom, genre, j'ai parlé, tu sais, au gars, là, ce gars-là qui travaille avec toi ou whatever, là, c'est comme... Mais eux autres, ils nous ont demandé... Ils nous ont pas demandé deux fois notre nom.
Non.
Il est arrivé, il nous a serré la main, puis il nous connaissait.
Puis genre, quand un gars de même, genre, te dit, tu sais, Dom,
Man, oui, monsieur.
Comment tu sens chéri et apprécié, et genre, pour vrai, puis tu sais, ça paraissait que comme... Probablement que c'est rendu naturel pour lui, mais je veux dire, il fait quand même l'effort conscient de comme, tu sais, s'intéresser, puis genre, justement, retenir le nom, puis nanana.
Mais ça, c'est une qualité, tu sais, on entend souvent parler des fameuses histoires de René Angélil qui ne te voit pas pendant 12 ans, puis qui revient te voir, puis qui se rappelle ce que tu lui avais dit, v'là 12 ans, puis il se rappelle ton nom, puis tout. Une couple de personnes comme ça, que c'est vraiment une qualité unique et... qui fait que ce monde-là, dans des affaires de PR puis des affaires de relations publiques, ben ça permet d'atteindre des hauts postes puis de bien faire dans un monde comme ça, dans le fond.
Ouais. Puis tu sais, l'aspect PR, je veux dire, il se fait critiquer aussi là, par les Richard Martineau puis ce genre de commentateurs-là parce qu'il est PR, parce qu'il va aux émissions, puis... Comme s'il n'était pas sur le terrain. Ben c'est ça, en partie, sa job. Parce que, je veux dire, il y a quand même toute la job de comme, tu sais, qu'est-ce qu'on fait dans la rue, là, puis qu'est-ce qu'on fait dans... Mais l'affaire, c'est que les deux sont interconnectés, tu sais. Puis c'est ça qu'il expliquait aussi au podcast, puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il réussit à faire changer la perception de la police à du monde, ça a un impact réel sur comme... La criminalité, puis genre comment ça se passe dans la rue, là, tu sais. Si les kids qui grandissent en détestant la police versus les kids qui voient ce gars-là puis qui se disent « Chris, OK, dans le fond, c'est pas juste des trous de cul là-dedans, puis il y a du monde comme moi, puis il y a du monde comme ci. » Genre, ça fait juste comme que ça coexiste mieux, là, tu sais, puis ça va mieux. Fait que, tu sais, sa job est fucking importante à ce niveau-là, tu sais, puis c'est pas genre juste un stunt de genre, hey, regardez comment que je suis cool et intéressant. Ouais. C'est comme, non, c'est genre, c'est important, tu sais.
Ouais, vraiment.
Puis, c'est ça, tu sais, on a parlé, là, genre de. Les gens qui vivent avec ACAB comme mantra, là, tu sais, puis comme à quel point, genre, pour beaucoup de monde, c'est comme identitaire derrière la police parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience à un moment donné, tu sais, puis genre. Ou parce qu'ils ont vu des vidéos qui viennent, genre, des États-Unis ou qui, tu sais, qui est genre.
Ouais, ouais, c'est ça, exact. Exact, puis, mais ça, man. Il n'y a pas grand-chose qui, à mes yeux, discrédite plus ton opinion que si tu prends cette position-là. Si tu prends la position « all cops are bastards », là, all cops, là, ben, man, ton opinion vaut plus rien, à mes yeux, pratiquement automatiquement. Ouais. Peu importe ton opinion sur quoi que ce soit d'autre que tu me dis, si t'es assez twisted pour penser ça, oublie ça, là. Oublie ça, c'est que t'as aucune nuance dans cette réflexion-là. Pis tu sais, je veux dire, Chris, man, s'il y a bien quelqu'un qui est pas un bastard, c'est Fadi Dakar. Tu sais, honnêtement, man.
Non, mais c'est ça, tu sais. Pis justement, parler avec, pis le voir en entrevue, pis tout, ça donne le goût. Parce que c'est sûr que, je veux dire, la police, je veux dire, il y a du monde là-dedans.
Il y a du monde, il y a des bastards. Il y a des bastards.
Tu sais, il y a du monde qui abuse de leur pouvoir, il y a du monde qui font plein d'affaires.
Tout à fait.
Horrible, tu sais. Mais, en tout cas, de voir qu'un gars comme ça est à la tête d'une organisation comme ça, ça. C'est rassurant. Ça donne le goût de croire en comme que ça va dans la bonne direction.
Tout à fait.
Fait que on va se mettre un extrait.
On va se mettre un extrait, puis on vous revient.
Je sais pas, juste par rapport à ça, je sais pas si tu te souviens. Tu sais, mettons dans les commentaires de ce podcast-là, il y a un autre qui avait commenté, c'est comme un humoriste là, montréalais, là, un peu engagé. Là. Puis genre, juste à cause qu'on avait fait un podcast avec la police, c'était comme vraiment ordinaire votre entrevue. Puis c'est comme, le gars, il fait juste comme dénoncer le racisme, puis genre, être genre crissement pro, genre, c'est comme, c'est juste thumbs up, là, ce qu'il dit, là. C'est comme, c'est juste comme great, là, tu sais, c'est comme, je vois pas qu'est-ce que tu peux trouver là-dedans qui est genre, ouais, vraiment pas fort, les gars. C'est comme, OK, man.
Je parlais.
T'es juste comme contre la police, comme de manière
globale, genre,
viscéral et genre non négociable, non nuancé.
Ouais, man. Écoute, on rentrera pas dans cette tangente-là, mais je trouve que c'est un des plus grands mâles de notre génération. Exactement ça, genre. Ce gars-là.
La non-nuance.
La non-nuance, puis le désir. Mettons que tu penses ça, puis tu tombes sur notre extrait de ça, mettons. À quoi ça te sert de commenter que notre entrevue est ordinaire? À quoi ça te sert de commenter ça? Honnêtement. De donner ton opinion, de penser qu'on veut ton opinion sur ça, genre. Puis que ton opinion doit être connue. Genre. Alors que c'est clairement une opinion minoritaire. Que tout le monde était genre, hey, ce podcast-là, genre, c'est bon les gars, comme c'est nuancé, c'est cool. Puis là, c'est comme votre entrevue est ordinaire. Comme, man. Fais ta propre affaire, man. Do your own thing. Je sais pas. Je pense que je suis trop fed up un peu.
Non, mais je pense que c'est du monde que, mettons, lui, probablement que ça fait partie de son brand, comme critiquer la police.
Ouais.
Puis là, c'est une vidéo qui est virale en plus. Lui, il y a un crochet bleu, il arrive au top de la liste tout le temps. Tout le monde voit son. Ça fait que ça y amène comme du trafic là, sur son truc, là, tu sais.
Ouais. Mais tu vois, c'est peut-être ça. C'est peut-être plus que ton truc, c'est ça, dans le fond.
Ouais,
c'est plus ça le mal de notre génération. C'est comme, ok, fait que dans le fond, ton truc, c'est d'être juste comme. D'être négatif sans nuance, dans le fond. C'est ça ton idée, là. Mm-hmm. Ton plan, ton projet. Là. Ta plateforme, tu veux l'utiliser pour ça. Vraiment? En tout cas, anyway. Ouais, on va écouter un extrait.
En tout cas, c'est comme si pour des gens, il y a tellement une perception que c'est presque rendu identitaire. Ouais. Là,
c'est viscéral.
C'est viscéral de pas aimer la police.
Mais ça fait mal. Ça fait mal à la société. Hein. Ouais. Il y a le corps de police, mais la société en général, parce que cette même fille-là, puis ça, c'est des cas vécus. Hein. Des gens qui haïssaient la police, puis à un moment donné, ils ont fait le 9-1.
Ouais.
Mm-hmm. Et quand le policier ou la police sont arrivés, puis ils l'ont protégé, puis ils l'ont sauvé la vie, la même personne, je te jure, son discours, là, il change comme ça. Mais c'est peut-être 2%, 5% qui appellent le 911.
Ouais.
Mais malheureusement, c'est des gens... Mais c'est ça l'affaire, c'est que si les médias sociaux sont tellement nourris de choses parfois positives, parfois négatives, quand c'est négatif, et ça touche principalement ou souvent la même profession, et c'est toujours des scandales, le vidéo est édité d'une intervention policière.
Exact.
Ça, là, franchement... moi, là, les histoires de vidéos éditées, j'ai pas de la difficulté à ce que tout soit filmé. Aucun problème.
Ouais.
Filmons tout, mais garde le film au complet.
Garde le film au complet.
Ouais. Ouais. Garde-le au complet.
Ouais.
Tant qu'à ça, là, on va dire les vraies choses.
Ouais.
Puis là, tout à coup, tu filmes la partie, et moi, j'ai souvent dit aux médias, puis quand je te parlais de franchise, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui vont penser qu'une intervention policière physique va être élégante, je vous dis, là.
Ça le sera pas, là.
Ça sera jamais élégant. Et le chef, lui-même, si je dois courir après quelqu'un pour des raisons criminelles ou quelque chose, et je dois sauter sur lui pour le mettre à terre, ça ne sera pas élégant.
Ça ne sera pas une belle technique
non,
de jiu-jitsu.
Non,
de...
puis ça ne sera pas tout élégant. Ouais. Il vole dans les airs, puis il tombe.
Ouais.
Puis je leur prends le coup, je l'amortis. Non.
Ouais.
Ça va être quelque chose.
Ouais. Pourquoi? Pour se rendre là, j'entends qu'il y a plusieurs étapes.
Ben oui, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc, parfois, tu filmes le 15 secondes où les policiers, comme exemple, je donne un exemple très simple. C'est bien que les gens nous écoutent. Il y a une intervention policière pour contrôler quelqu'un qui est pas en danger, mais il fait un danger autour de lui.
Mm-hmm.
Puis il faut l'arrêter. Et le gars était armé, pas armé, bon, peu importe, mais quelque chose de dangereux. Puis il y a 4-5 policiers qui tombent sur toi pour te contrôler. Alors tout le monde va parler abus.
Abus policier, abus c'est policier. 4 personnes contre
4
une personne.
4 personnes sur une personne, voyons, ça n'a pas de bon sens. Mais PH, là, si je te prends et je te mets à terre, jamais je pourrais te contrôler.
Ben, impossible. Moi, je crois que oui, là, mais...
Non.
C'est malade quand même, si plus fort que moi.
Si tu es moindrement en crise,
tu vas
tellement te redire.
Ça va être difficile, en tout cas.
Ça va être très difficile. Mm-hmm. Et malheureusement, je risque de te blesser parce que je n'arriverai pas. Mais si j'ai un partenaire qui prend un bras, une jambe, une autre jambe, du coup, tu vas sentir que, oups, finalement, je suis en train de contrôler ton corps sécuritairement. Je prends ton bras, mets les menottes, tu t'es pas blessé, je me suis pas blessé, et t'as blessé personne autour. Mais l'histoire de George Floyd, parce qu'à un moment donné, c'est devenu tellement viral, le genou dans le cou.
Ouais.
J'ai dit attention, le genou dans le cou, c'est pas enseigné. Ça, c'est illégal. Mais le genou sur l'omoplate, il est même pas juste enseigné, exactement. C'est encourageux. Mets ton genou ou ta jambe, ton tibia, sur l'omoplate pour l'aplatir. Mais pas trop, il faut qu'il soit dégagé pour qu'il respire.
Alors, mais ça, c'est enseigné, justement.
Oui,
c'est des techniques.
C'est enseigné 4-5 personnes pour contrôler une personne. Mais si tu restes sur la vidéo pendant 15 secondes...
Tu vois juste 4 personnes qui se mettent sur une personne. Ouais,
qui s'est de près le bras.
Ça semble être de l'abus
policier. La violence, oui. Ouais.
J'ai vu un reportage de Radio-Canada, justement, et puis il y a des policiers qui ont parlé à visage couvert de justement le fait que tout est filmé. Certains policiers...
J'ai vu.
Maintenant, ils hésitent à revenir. Il y a des moments, que surtout quand il y a des questions justement de minorité pour ne pas se faire accuser de racisme ou quoi que ce soit, il y a des policiers qui préfèrent pas s'en mêler plutôt que d'intervenir pour éviter qu'une vidéo soit prise puis là, devenir une tête de turc ou devenir... une espèce de visage du policier raciste.
Mais je l'ai vu, là, puis on m'a demandé est-ce que c'est un phénomène existant? Oui, il est existant. La démobilisation et le crime est à droite, il y en a qui regardent à gauche. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup.
On est de retour avec un prochain épisode coup de cœur de l'année. L'épisode avec Nicolas Bérubé sur le titre du podcast, très un des bons clickbait qu'on a fait.
Un des bons clickbait, mais de toute évidence, ça a marché, puis on en a parlé.
En même temps, ça a marché, puis en même temps, c'est
comme ça qu'on parle.
Littéralement la vérité, dans le sens que comment devenir millionnaire facilement, c'est comme on a juste pas dit la période de temps que ça prend.
Ouais,
c'est
facilement sur 50 ans.
C'est ça. Sur votre vie.
Ouais, c'est ça.
Mais oui, c'est ça, au final, tu sais, puis on a parlé d'investissement en bourse. Puis d'épargne, puis de ça, puis de construire sa petite fortune et son avenir, tout ça. Puis moi, j'ai vraiment pris plein d'affaires avec le podcast, puis en me préparant pour le podcast, parce que j'ai tout le temps vu ça comme étant quelque chose de compliqué, là, tu sais, comme la bourse, puis genre dans quoi t'investis, puis dans quoi que...
De risquer
genre,
aussi.
Genre, tu sais, on a beaucoup joué à la bourse, là, tu sais, puis le checker les graphiques, là, OK, ça a monté, ça a descendu, nanana, puis là, finalement, dans le fond, lui, son message, c'est comme fait exactement le contraire de ça, dans le fond, intéressez-vous pas du tout à la bourse.
Ouais.
Checkez ça le moins possible. Checkez jamais vous êtes rendu où, genre dans comme comment ça fluctue vos trucs, si vous avez comme fait des gains ou des pertes. Faites juste, au final...
Crissez ça sur le pilote automatique.
Crissez ça dans un fonds négocié en bourse, genre le S&P 500, qui est comme les 500 plus grandes compagnies américaines, genre. Investissez là-dedans. Oubliez que vous avez ça. Puis, alors, checkez ça dans 35 ans.
Ouais.
C'est juste ça, là, ça prend 20 minutes. Là.
Ouais, exact.
De ta vie, genre. Ouais. Après ça, tu check. Mettons que tu remets à chaque année. Là,
ouais, peu, ou à chaque mois.
Chaque mois, là, tu peux le mettre automatiquement. Puis c'est comme, ah, dans le fond, c'est chill, tu sais.
Ouais.
Puis tu sais, non seulement, c'est moins de temps, puis c'est plus facile juste comme faire ça, tu sais. Mettre ça dans un fond, puis après ça, puis toucher, ça a donné des meilleurs résultats. Parce mm-hmm. qu'il y a, puis dans son livre, il en parle aussi, tous les plus grands économistes puis les plus grands stratèges financiers qui font des transactions en bourse sur le long terme, sur une année peut-être qu'ils peuvent battre le S&P 500, là, tu sais, ils peuvent avoir une meilleure croissance parce qu'ils ont eu un coup de chance, mettons. Mais sur le long terme, personne ne réussit à le battre, même les plus grands.
Mm-hmm. Puis penseurs. Les meilleurs rendements, ce qu'il expliquait, les meilleurs rendements, c'est du monde qui ont oublié qu'il y avait des investissements.
C'est ça.
Soit du monde qui sont morts ou du monde qui ont oublié qu'il y avait des investissements.
Exact.
Ça en dit long quand même. Là.
Fait que c'est ça. Tu mets ça là-dedans, puis le fond, c'est que, tu sais, mettons, si j'achète des actions d'une compagnie en tech, puis là, en ce moment, c'est booming, mais genre, que peut-être que dans 20 ans, la compagnie, elle n'existe plus, tu sais, ça ouais. peut... Tandis que ça, c'est comme les compagnies se renouvellent d'elles-mêmes parce que c'est juste comme les 500 meilleures. Fait ouais. que s'il y en a une qui crash, elle sort, et une autre qui rentre. Fait que c'est comme...
Dans c'est le fond, facile.
Il n'y a aucun risque, puis genre, ben aucun risque. À moins que comme, mettons, économiquement, comme genre... Il y a une mauvaise année, puis que là, ouais. tout s'écroule, entre guillemets, puis là, t'as besoin de cet argent-là. Là,
tu veux-tu tasser l'arbre?
Non, même. Non, je suis pas correct.
Mais ouais, tout à fait.
Mais puis t'as besoin de cet argent-là, mais dans le fond, c'est ça, le but de ça, c'est comme de genre, tu places ça là.
Tu places l'argent pour que tu sais que t'as pas
très
besoin.
Long terme, pour ta retraite.
Ouais, c'est ça.
Puis moi, je pensais que j'étais bien fin, là. J'étais bien intelligent avec mes fonds dans Desjardins, genre. Que je me suis fait proposer pour mes REER.
Un mais rendement quand même minime. Là.
Un rendement moins bon que ça, puis avec des frais de gestion de 2%.
Ouais. C'est énorme, 2% si tu fais 5%. Là.
Ben oui, man, c'est énorme. Fou, 2%, puis tu donnes 2% à vie, genre, de tout
ça. C'est de l'argent que tu te sers pas, genre, c'est de l'argent que tu pourrais aujourd'hui faire de quoi avec, tu sais.
Ben oui, c'est ça.
Alors que ça coûte moins cher aujourd'hui que dans 20 ans. Fait qu'en plus de pas être à un si gros rendement, tu t'en sers comme pas.
Non, non, c'est ça. Fait que ça, c'est comme... Ça, faut
pas faire... T'as-tu changé quelque chose depuis
j'ai pas changé parce que là, bientôt, je vais faire des changements dans ma structure.
Ouais.
Fait que là, je vais comme placer mon argent des meilleures places.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. Ou, tu sais, travailler des conseillers financiers. Genre, je suis sûr qu'il y en a des greats, puis je suis sûr que vous êtes bien fins, les ouais. conseillers financiers qui nous écoutent. Mais la réalité, c'est que t'es mieux de juste te placer ça toi-même.
C'est ça.
Avec une application, genre Wealthsimple, ou ouais. même Desjardins, ils ont comme...
ouais.
Je me souviens plus comment ça s'appelle, là. Leur application que tu fais juste placer à la bourse là-dedans, puis boum, bim, boum, c'est réglé.
Moi, man, ce podcast-là, je suis d'accord avec tout ça, puis évidemment, j'ai appris beaucoup aussi. Ça m'a créé beaucoup d'anxiété, par exemple. Mm-hmm. Puis la raison pour laquelle, c'est que moi, aussitôt que j'ai eu du lousse dans ma vie,
ouais.
je me suis starté une compagnie.
Ouais.
Puis que là, cette compagnie-là, qui est Upica, qui est ma deuxième compagnie après le studio, ça demande mon argent, tu sais, ça a continué à drainer mon argent puis à drainer mon temps. Puis là, j'étais là, man, genre, je suis même pas proche de pouvoir penser à mettre de l'argent dans des CELI, genre. Puis lui, il disait, la première chose à faire, c'est remplir tes CELI, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, mais je suis même pas proche de pouvoir penser à peut-être faire ça.
Fait que là, je veux dire, mais pas proche dans le sens que ça dépend, là, t'es pas obligé de remplir ton CELI.
Non, non, je sais, mais...
Un peu.
Ouais, t'sais. Mais je suis même pas comme... En ce moment, je réinvestis toutes mes affaires dans mes compagnies, tu sais. Puis là, je le voyais pas comme un investissement dans mes compagnies, mettons. Puis j'étais là, Chris, man, je suis pas en train de placer mon argent. Puis là, finalement, il a fallu que je prenne du recul de ce podcast-là puis de cette préparation vers ce podcast-là pour me dire, hey, dans le fond, ce que je fais, c'est un investissement aussi, tu sais. C'est un investissement différent que c'est pas mal moins passif que l'investissement que je fais à builder une compagnie, mettons, puis à mettre mon argent là-dedans, mais ça demeure pour le moins un investissement. Puis ça m'a comme relaxé quand j'ai spiné ça dans ma tête de cette façon-là. Là.
Ouais.
De faire, je suis pas en train de prendre du retard, parce qu'après ça, t'entends, mettons, puis arrive McSween qui dit ton repas à 200$ que tu payes maintenant au resto, ben il te coûte... coûte 1500$ quand t'as 40 ans, là, tu sais.
C'est sûr que le fait d'avoir une compagnie, c'est comme quand même un cas particulier versus être salarié. Quand t'es salarié, tu peux, puis t'as un job que tu te projettes à long terme dedans, tu sais à peu près combien tu peux placer, aujourd'hui, puis tu sais à peu près comment tu vas faire dans ta vie suivant la courbe de comme augmentation de salaire que tu risques d'avoir. Ouais. C'est assez facile à prévoir. Fait qu'après ça, tu dire... ben, quel pourcentage de ça, genre, j'essaie de me garder de côté pour en avoir plus à la fin, de pas le dépenser tout de suite pour en avoir plus tard, versus que si tu dépenses tout au fur et à mesure, ben, je veux dire, à la fin, t'en as plus, puis genre.
C'est ça, c'est, exact. Bon.
Avoir une compagnie, effectivement, c'est ça, mais n'empêche que, puis là, je veux pas te stresser, mais tu sais, genre, ta compagnie, elle peut quand même faire faillite, tu peux te faire poursuivre pour une raison.
Il y a un risque plus grand que de placer ton argent dans un fonds, ça c'est sûr, sauf que aussi le reward est plus grand que 9% down the line aussi.
C'est ça.
Fait qu'il y a un risque que la compagnie fonctionne plus, mais il y a aussi un risque que tu paries sur toi dans le fond.
Mais tu sais, Pierre-Yves McSween aussi, j'ai entendu dans le podcast le dire, genre la seule manière de comme devenir riche, personne qui devient, ben je veux dire, à part mettons en bourse sur le long terme, tu sais, c'est d'avoir une compagnie, d'être entrepreneur, là, parce que je veux dire être salarié, je veux dire...
À moins que tu sois médecin.
À moins que tu sois médecin, mais tu sais, tu travailles pour que... Tu as une sécurité, il y a quelqu'un d'autre qui a pris un risque, tu travailles pour cette personne-là qui a pris un risque. T'sais.
Exactement, c'est ça. Ouais.
Mais c'est ça, mais tu sais, je veux dire... Tu sais, rien t'empêche de couper un resto par mois, puis
non,
mettre
clair.
Dans tes cellules.
C'est clair. Non, c'est clair, mais tu sais, le resto par mois, ça reste que...
Ouais.
C'est marginal versus tu vas cash out sur de quoi, puis là tu pourras remplir tes trucs. Là,
mais tu sais, je pense que c'est normal. Je pense que tous les entrepreneurs en début de compagnie investissent tout
le temps. Ben non, c'est ça, exact. Sauf que le fait de m'en rendre compte que c'est de voir comme un investissement, puis pas juste flober mon cash, mettons, ça a changé le mindset un peu.
Ouais.
Mais c'est un des podcasts qu'on m'a le plus parlé aussi, celui-là. Beaucoup de monde qui m'ont parlé, qui m'ont dit ah ouais, c'est
vraiment great, vraiment intéressant, puis. Ben, je recommande à tout le monde de l'écouter, ceux qui ne l'ont pas écouté aussi, là, pour comme avoir des trucs. Puis on a parlé d'investissement en bourse, mais on a parlé aussi justement de comme comment qu'est-ce qui se coupe facilement ou comme quelles dépenses connes on fait. Là, je veux dire, on a parlé de Uber Eats, mettons, à quel point c'est un trou à cash, des affaires comme ça. Ouais. Que, changer juste des petites affaires dans sa vie pour être capable d'épargner, mettons.
Ouais, exact.
Fait que on va l'écouter un extrait.
On écoute un extrait.
Oh yeah!
L'investissement, c'est parce que tu comprends que l'argent, c'est pas juste des points. Tu sais, moi, pendant longtemps, pour moi, l'argent, c'était comme des points. C'est comme, je veux m'acheter une paire de skis, ça coûte 800 points. Ah, j'ai 800 points dans mon compte, je donne, tu sais. Mais l'argent, c'est pas des points. L'argent, c'est des travailleurs. Ça peut travailler pour toi. T'sais, moi, j'ai de l'argent qui travaille pour moi aujourd'hui que j'ai gagné en 2001. Qui travaille encore pour moi pendant qu'on se parle là. Tu sais. Donc, c'est ça un peu l'idée. C'est qu'une fois que tu as compris ça, c'est un pouvoir, cet argent-là. C'est un pouvoir qui peut prendre la forme d'un objet que tu peux acheter maintenant ou dans le futur, mais c'est un pouvoir qui peut prendre la forme d'une année sabbatique, qui peut prendre la forme d'une retraite plus tôt. Des gens qui, tu sais, combien il y en a des gens qui sont à 5 ans ou 10 ans de la retraite, ne sont plus capables, ils regardent le calendrier. Ah non, j'ai ma prison dorée, oui, j'ai des menottes dorées, blablabla. Des personnes qui t'ont mis ces menottes-là. Imagine la personne qui a 600 000, 1 million de placés. Cette personne-là, elle peut travailler à temps partiel, elle peut se réorienter, travailler dans une job moins payante, mais c'est pas vraiment grave parce qu'elle a des actifs. Donc, quand tu le vois comme ça, c'est pas juste du bling-bling Louis Vuitton que tu peux aller te chercher avec cet argent-là. Donc, c'est vraiment une liberté. Donc, moi, c'est ça. Le fait de le voir comme ça, puis ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné, au bout de 10, 15 ans, 20 ans, bien, tu regardes tes placements, puis tu fais « Aïe, mes placements gagnent plus d'argent que moi. » C'est comme si vous étiez deux à travailler. Là. OK? Donc, ça c'est à la portée de plus de monde qu'on pense, tu sais, de faire ces placements-là. Puis encore là, ça fait baisser le stress. Ça fait qu'il arrive une récession, qu'il arrive une perte d'emploi. Tu peux te retourner de bord, puis t'es moins stressé. Donc, c'est un peu ça, moi, que j'ai découvert, entre guillemets, avec mes recherches, mes entrevues, les livres que j'ai écrits. Ça tourne un peu autour de ça, tu sais. Puis oui, est-ce qu'il faut sacrifier des choses? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, se priver? Bien, tout dépend de comment tu vois ça, tu sais. C'est sûr que la personne qui a pris l'habitude d'aller au restaurant tous les soirs, qui est rendue à mon âge, ben là, wow, attends, là, je vais me priver, tout ça, bon. Mais c'est pour ça que si tu commences jeune à 20 ans, tes habitudes ne sont pas encore formées tant que mm-hmm. ça. Tu peux faire un choix de la voiture que tu veux, tu peux faire un choix de genre de voyage que tu veux. Les restos, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par semaine. T'sais, tout peut changer. Donc, la personne qui comprend ça, elle peut faire un choix un peu différent de la masse, entre guillemets, mais le résultat va être vachement différent de mm-hmm. ce que tout le monde a. Parce que tu vas lire, tout le monde est stressé, tout le monde est pris à la gorge, tout le monde est... Mm-hmm. Mais toi, tu seras pas ça. Donc, c'est.
Tu seras pas pris là.
Tu ouais. seras pas pris là. Tu seras ouais. pas pris dans la trappe de sable à stresser pour des choses qui devraient objectivement pas être stressantes. Des gens qui gagnent bien leur vie, ils devraient être capables de mettre 10, 15, 20 de. Tu sais, moi, comment je vois ça, c'est. Donc, sur les 5 jours dans une semaine, il y en a 4 que je travaille pour mes besoins actuels. Puis la 5e, je m'enrichis.
Mm-hmm.
Donc, mm-hmm. juste en faisant ça, ben c'est 20%.
Tu prends 20% de ton salaire pour
exact.
Le
voir. Ouais. Puis la façon dont je le vois, si je dis aux gens, mets 20% de ta paye de côté, quoi, t'es-tu fou, voyons donc. Mais OK, mais je te dis, regarde, il y a 4 jours dans la semaine que tu travailles pour toi maintenant, puis le 5e, tu t'enrichis avec cette journée-là. Ah, ben c'est comme logique, tu sais, bon. Puis notre société est un peu extrême sans s'en rendre compte, parce que dans le fond, si tout le monde est extrême, personne n'est extrême. T'sais. Donc, dans le fond, c'est juste de se dire, attends, là, je dépense 100% de ma paye. Là. C'est vraiment extrême. T'sais, historiquement, c'est du jamais vu là, ouais. qu'on fait ça. Là. Les humains, là, c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ça ne leur serait jamais venu à l'idée de dépenser 100%.
Dépenser 100%
mais ouais. maintenant, c'est la norme. Mais je pense que c'est entre 3 et 5 % l'argent que les gens mettent de côté.
Ouais.
Mais donc, puis si tu le mets, si tu fais monter l'aiguille un peu, tu sais, au lieu du 3 %, tu le mets à 10, à 15, à 20, là, tu as vraiment un avantage. Puis il y a des gens, il y a le mouvement FIRE, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Financial Independence Retire Early, donc FIRE, l'acronyme. Et ça, dans le fond, c'est exactement ce que je dis, mais l'aiguille, au lieu de la mettre à 10 ou à 15 %, il y a des gens qui la mettent à 50, 60 oui. C'est généralement plus facile de faire en couple, je dirais. Là.
Ouais.
Imagine un couple, tu sais, les deux ont un bon salaire, tu vis sur un salaire et tu sauves l'autre.
Ouais.
Ça, là, c'est comme, ça n'a pas de sens. Là. Dans 15 ans, là, tu pourrais prendre ta retraite. Là.
Un autre podcast. Qui a marqué l'année pour moi, pour nous, en fait.
Ouais.
Le podcast avec Geneviève Janson.
Ouais.
Geneviève Janson, qui, quand on était plus petit, a quand même frappé l'imaginaire québécois.
Vraiment.
Je me rappelle très bien quand c'était arrivé, quand elle avait testé positif à l'EPO, comment ça avait fait une onde de choc au Québec. C'était gros, là, tu sais. Puis en sachant que là, elle était prête à en reparler un petit peu, puis on s'écrivait un petit peu sur Instagram, puis tout, puis sachant qu'elle allait revenir, tu sais, je suis comme retombé dans les archives de quand ça se passait, puis que ça s'était genre ça s'était déployé sous nos yeux, tu sais, dans un documentaire, je pense que c'était J.E. ou Enquête, je m'en rappelle plus c'était qui avait fait ça, mais là je la revoyais toute jeune, puis là après ça on a eu la chance de la voir maintenant des années plus tard dire des choses qu'elle avait jamais vraiment dit sur une plateforme, puis c'est une assez d'histoire, man.
Ouais, son pis histoire est...
n'importe qui. Puis moi, tu sais, j'ai fait assez de sport, puis j'ai côtoyé assez d'athlètes d'excellence dans ma vie pour savoir que n'importe qui juge les gens qui se dopent sans avoir toute l'histoire, vous comprenez pas, là.
Ouais, ouais.
Si dans votre tête, c'est comme, genre, Lance Armstrong, c'est un juicer, genre, il vaut plus rien, c'est pas ça l'histoire.
Plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué que ça, tu sais. Puis oui, c'est une triche, puis au final, la personne, c'est la personne qui décide. Mais... quand on entend Geneviève Janson parler de son histoire, tu réalises que tabarnak, man, c'est pas elle, là.
Mais non.
Le problème, là, c'est
Mais
non, pas c'est elle, tu sais.
Ben justement, tu sais, je réécoutais un peu des extraits du podcast un matin, tu sais, puis elle dit, tu sais, elle a commencé à prendre le PO à 16 ans, tu sais. Puis dans le fond, pour ceux qui connaissent pas du tout l'histoire, tu sais, elle, dans le fond, c'est ça, elle s'est fait prendre pour prendre de l'EPO, elle était comme bannie, là, dans le fond, de la compétition, puis tout. Puis, mais c'est qu'elle, dans le fond, elle avait, je dirais, elle se faisait abuser, là, finalement, par son coach.
émotionnellement, physiquement, mais sexuellement aussi, tu sais. Puis genre, elle disait, dans le fond, prendre le PO, c'était comme le moins pire des abus que je subissais. Là. Il y avait bien d'autres affaires en under the hood, bien pire que ça, tu sais. Mm-hmm. Puis... Mais c'est ça, juste, moi, j'ai trouvé qu'elle était d'une franchise puis d'une ouverture comme incroyable, tu sais. Puis... j'en revenais pas, là, tu sais, qu'elle nous contait ça. Puis, tu sais, elle n'a pas parlé beaucoup. Puis, comme quand on y avait écrit, tu sais, elle disait, ah, là, je me sens prête à en parler.
Fait... Parce que moi, j'y avais écrit déjà 2 ans plus tôt. On s'était écrit un peu sur Facebook. Puis, elle avait comme dit, ah, je vais y penser. Puis, elle m'était jamais revenue, tu sais. Fait que je pense qu'elle avait cheminé juste dans ces 2 ans-là de faire, hey, là, je suis prête à en parler.
T'sais. Ouais. Puis, c'est ça. Puis, c'est pas dans les podcasts qu'on fait, tu sais, c'est pas celui qui a fait le plus de vagues, mais dans mon cœur. Je trouvais vraiment que c'était comme un great podcast qu'on venait faire parce que, tu sais, comme elle s'est vraiment ouverte, elle a raconté des trucs vraiment intenses, tu sais, comme sans gêne, ben, pas sans gêne, mais genre sans filtre au final. Puis c'est une histoire fou, là, tu sais, de comme comment que ça a commencé, toute cette relation tordue-là avec son coach. Elle est allée aux États-Unis, ils ont habité ensemble, il y avait un resto ensemble, elle s'est enfuie, genre littéralement, comme un matin, elle a fait genre, faut que je m'enfuis d'ici, genre, puis là, elle a comme toute fait une stratégie pour littéralement s'enfuir, là, tu sais, genre dans le vrai sens du terme, là, tu sais. Fait que. Ah ouais, c'est quelque chose. Puis là, qu'elle revienne, puis là, qu'elle s'est reconstruit aussi, quelque chose de touchant là-dedans, de genre. Là, elle reprend plaisir à s'entraîner, à faire du vélo.
Elle commence à faire des courses,
tu sais. Puis genre, elle a complètement changé sa perception. Maintenant, elle a retrouvé le fun à faire du sport. Ouais. C'est pas juste comme, genre, un coach qui t'abuse puis que tu fais du sport, là, tu sais. Ouais. Fait que, great podcast.
Super podcast. On va aller écouter un extrait.
Extrait.
Yes.
Donc, il y a eu 11 jeunes femmes qui ont fait des plaintes. Ils ont fait des plaintes à l'UCI, au comité éthique. Le comité éthique a pris environ 6-9 mois, là, je m'en souviens plus, là, pour...
Trop longtemps.
Trop longtemps pour faire leur investigation. Les jeunes femmes qui ont décidé de parler ont été tenues dans le néant. Ils ne savaient pas en tout qu'est-ce qui allait arriver avec leur cas. Ils n'étaient pas informés des développements et tout. Donc, une fois que le comité d'éthique a dit « OK, il y a vraiment eu une faute qui a été commise », ils l'ont mis au comité disciplinaire. Le comité disciplinaire a pris un autre X mois pour donner la sanction, qui était une sanction rétroactive. Mais supposons, ça a pris 2 ans de temps. Pendant 2 ans, le gars, il a continué à travailler dans le peloton féminin. Fait que, tu sais, les abus qu'il faisait, tout ça, ça l'a continué. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça... vraiment malsain pour les jeunes femmes. Puis, tu sais, je me suis dit, si ça continue comme ça, il n'y aura pas personne qui va décider de parler. Parce que c'est... Puis on voit ça souvent dans la société, tu sais. Le paperwork, la bureaucratie est tellement grande que finalement, les gens se disent, oh my God, ça vaut pas la peine. Fait que c'est un petit peu ça que je dénonçais. Et en même temps, ben là, j'ai parlé de mon expérience personnelle, tu sais, que pour moi, oui, j'ai pris des produits dopants, mais j'en ai pris pour la première fois à 16 ans. Puis c'était la conséquence d'avoir été abusée sexuellement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, c'est tout ça. C'était juste la suite de ça. Fait que ça a commencé là.
Ouais. Mettons qu'on revient à ton histoire. Est-ce que pendant... En fait, quand ça arrivait, tu t'en rendais compte? Parce que j'imagine que c'est pernicieux, là, c'est quelque chose qui arrive progressivement. Puis là, au début, t'es comme, t'acceptes des affaires, puis t'en acceptes de plus en plus. Mais y a-tu, mettons, je sais pas, la première fois que tu t'es dopé, est-ce que tu réalisais ce qui était en train de se passer? Mettons que tu réalisais que là, hey, là, c'est pas cool, là, c'est pas correct ce qui m'arrive, ou t'es comme trop dedans encore?
Ben, pour moi, de la façon que c'est arrivé, ben, tu sais, j'ai gagné quand même plusieurs courses sans dopage, là, dont les 2 médailles d'or au championnat canadien quand j'étais encore d'âge cadet. Puis, tu sais, j'avais été surclassée dans les championnats, dans les juniors, fait que j'ai gagné tout ça quand j'étais cadette. Mais, qu'est-ce qui est arrivé en premier? Comment ça a commencé? C'était la violence. Il allait me frapper dans les entraînements, il allait me crier après. Il utilisait l'entraînement comme punition, en fait. Mais il était super violent, tu sais, là, la claque, elle arrivait vite. Puis il me disait tout le temps, ah, tu sais, c'est pour te rendre plus tough. Parce que quand t'es au championnat du monde, là, toutes les filles sur la ligne vont avoir de l'air fortes. Puis si t'es capable de prendre ma violence, tu vas être capable de prendre les coups de compétition, genre les attaques, tu vas être capable de répondre, tu vas être capable d'endurer la souffrance. Fait que ça, j'étais comme, OK.
Ouais. À ce moment-là, t'étais...
J'avais 15 ans.
Makes sense. Mais t'sais, au final, c'est complètement twisted, là, complètement.
Mais... Si je m'en rends compte, ça n'a pas rapport. Mais tu sais, j'ai 15 ans. C'est le premier coach que j'ai eu vraiment. Je vais de plus en plus vite. T'sais, mes compétitions, ça va bien. Je renforcis tout ça. Puis là, je suis là, OK. Fait que la première année se passe sans dopage, sans rien.
Ta première année avec lui?
Je l'ai rencontré quand j'avais 13. Mais c'est ma première année de vrai entraînement.
Ouais.
Fait que en première année se passe, les abus continuent, là, la violence, tout ça. Surtout,
ça s'installe rapidement. Ça.
Ouais. Ça, c'est arrivé comme assez rapidement. Ah ouais, hein.
Fait qu'au début, c'était juste un coach vraiment raide. Mettons,
un coach vraiment raide, puis c'était jamais assez bon. Puis tu sais, comme c'était tout le temps. Je me faisais tout le temps chicaner.
Okay.
Que mon entraînement soit bon ou pas. Fait, mais ça, tu sais, je pouvais comprendre. Je suis comme, OK, oui, ça se peut. Parce que c'est vrai que dans une course, là, tu te fais intimider, tu sais, verbalement, tu te fais pousser des fois dans les pelotons, des affaires de même.
Puis pour avoir fait du sport, je veux dire, des fois, les coachs sont raides, puis c'est ça. Je veux dire, c'est pas nécessairement malsain. Je veux
non,
dire, des fois,
exact.
C'est,
écoute,
il y a une forme de motivation ou de, tu sais, de juste de. Qui peut être bénéfique pour pousser un athlète, mais tu sais, je veux dire, puis après ça, c'est démêler tout ça. Là,
ben oui, ben c'est ça encore.
On est de retour.
Yeah!
Un autre podcast marquant de l'année, c'est le podcast avec Hugo Meunier sur l'alcool. Mm-hmm. Moi, c'est. Moi, ça m'a marqué vraiment, en fait, personnellement, ce podcast-là, parce que j'ai arrêté de boire pas longtemps après le podcast, puis je l'ai pas bu depuis. Puis, ben, tu sais, je pense que, dans le fond, Hugo, c'est un journaliste sur Urbania qui a fait un documentaire avec. Qui a été diffusé à Radio-Canada sur l'alcool, puis l'industrie de l'alcool, puis Éduc-Alcool, la SAQ, notre relation au Québec avec l'alcool en général, puis les effets sur la santé, tout ça dans un documentaire. Ça a fait beaucoup jaser, ce documentaire-là, parce que, je veux dire. L'alcool est omniprésent dans la société, puis genre, quand on touche à quelque chose qui touche au quotidien de tous, ça fait réagir, là, tu sais, puis c'était comme dans le même bout qu'il y avait les nouvelles recommandations sur l'alcool qui disaient comme, le mieux, pas boire d'alcool, puis dès qu'on boit, il y a des risques, puis plus on boit, il y a des risques, tu sais, versus avant, le message c'était plus comme, si vous buvez un peu, il n'y a pas de trouble, tu sais, là, c'était comme un peu un changement de paradigme, mais... Puis en préparation du podcast, j'avais écouté le podcast de Huberman sur l'alcool aussi, tu sais, que où est-ce que...
C'est sensiblement ce message-là. Là.
C'est ce message-là aussi, tu sais, puis il disait, ben, tu sais, même si tu bois 2-3 verres à semaine, tu peux te considérer, t'es considéré comme un buveur chronique. Puis un buveur chronique, c'est ça, les dommages pour la santé, sur le cerveau, sur ci, sur ça. Fait que là, j'étais comme Chris. Puis tu sais, tout ça alimentait une réflexion chez moi, qui était de... Dans le fond, l'alcool, tu sais, j'ai jamais aimé ça. Tu sais, jamais vraiment comme... Tu sais, les gens qui sont passionnés de bière, passionnés de vin, puis comme vraiment, tu sais, genre, ils ont le palais aiguisé, puis c'est comme vraiment leur passion. Moi, ça n'a jamais été ça, tu sais. L'alcool, ça a tout le temps été soit pour, comme, mettons, plus jeune, genre, juste me torcher, ou soit juste parce que dans un événement, puis la norme de cet événement-là, c'est comme dans un bar, mettons, c'est genre de boire l'alcool, fait que je vais le faire, tu sais.
Ouais.
Puis quand j'ai commencé à comme juste prendre une bière sans alcool à la place de l'alcool, puis ça fait de crise dans le fond, j'ai quelque chose dans la main, fait que je me sens pas awkward dans une situation sociale, puis j'ai autant de fun, ça a été comme réglé pour moi là.
Mm-hmm.
Puis pas que je boirai plus jamais, c'est pas comme un genre de truc identitaire ou de je prends une croisade contre l'alcool, peut-être boire à soir, là, qui sait.
Ouais.
Mais c'est ça. C'est juste d'avoir, je trouve ça, tu sais, tout ce podcast-là, puis toute la recherche autour, c'est comme légitimiser ma décision de ne pas boire d'alcool, dans le fond.
C'est
comme de me dire que, dans le fond, c'est correct, puis normal que je boive pas, puis j'ai pas comme à me sentir weird par rapport à ça, même si, comme, je l'explique au moins une fois par mois, mettons, là, que je me fais demander comment ça tu bois pas, genre. Ça reste que, pour le monde, c'est encore...
C'est encore drôle, là, ouais. Ouais. Moi, je suite à ça, j'avais arrêté de boire pendant un bout, genre de 4 mois.
Mm-hmm.
Puis là, quand l'été est revenu, parce que ça, c'était à l'hiver qu'on a fait ça, comme en décembre. Ouais. C'est un des premiers podcasts à être sorti l'année passée. Puis l'été avec des terrasses, moi comme j'aime ça, une bière, une blonde sur une terrasse, c'est comme,
mais oui,
c'est vraiment un moment de qualité puis de quoi que j'enjoy profondément. Puis je me suis dit que des risques pour la santé dans ce qu'on consomme, mettons, il y a plusieurs aspects, tu sais. Puis que étant donné que je buvais pas, tu sais, mettons, je bois pas à chaque semaine, je me suis dit, j'accepte de vivre avec ça. Oui. J'accepte de vivre avec la quelques bières que je prends des fois.
Mais non, mais tu sais, je veux dire, c'est bien correct de boire. Là.
Ben, c'est ça, exact.
C'est bien correct de boire, c'est juste, tu sais, mettons, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde qui fume sait que c'est pas bon. Puis tu prends le choix de
exact,
le faire.
C'est ça.
Genre, prendre un verre d'alcool, ça va être la même chose.
C'est
tu
ça.
Sais que c'est pas l'idéal, mais genre, de prendre une bière de temps en temps.
C'est comme ça que je le vois, moi, en ce moment.
Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun problème.
Ça a fait parler quand même, ce podcast-là. Ça a été écouté pas mal aussi.
Ça a été, ben, je pense, de loin, en tout cas, je checkais notre Spotify rap.
Ouais, sur Spotify, le
plus écouté. Sur Spotify, en tout cas, le plus écouté, je pense.
On pourrait vérifier, en fait.
Ouais. Puis, documentaire qui a été retiré, finalement, après. T'as-tu vu ça passer? Ouais.
Non.
Il a été retiré parce que il y a eu des plaintes. Ben, c'est parce que c'est sûr qu'un podcast dans le même, ça dérange du monde, là.
Ouais.
Puis en fait, c'est l'ancien directeur de Ducalcol qu'on voit dans le documentaire.
Ouais.
Lui, il a comme fait une plainte par rapport à certains trucs dans le documentaire qui étaient comme... qui avaient des erreurs, finalement. Là,
mm-hmm.
Fait que le Radio-Canada a juste fait genre... genre, on veut pas comme avoir quoi que ce soit qui a comme une erreur. Fait qu'ils l'ont retiré.
Faudrait qu'on reçoive un scientifique.
Ouais, ouais. Parce que c'était pas des erreurs... C'était comme des erreurs sur des virgules.
Non, je comprends.
C'était pas sur la science en tant que tel.
Non, t'sais. Je comprends, mais justement, tu sais, Hugo, il est venu en tant que gars qui a réalisé un documentaire, qui a parlé à du monde. Ouais. Fait que nous, on avait déjà la personne au milieu, tu sais, on avait un middleman, mais de recevoir un scientifique vraiment qui nous en parle pour de vrai.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même après ce documentaire-là, il y avait un backlash quand même de la communauté scientifique, d'une certaine part de la communauté scientifique sur certaines affaires. Fait que de recevoir quelqu'un qui viendrait éclairer tout ça, ce serait un bon follow-up.
Full.
Ouais.
On va faire ça.
On va aller écouter un extrait.
Extrait. Tu sais, mettons les recommandations de Ducalcol qui étaient 2 par jour, 10 par semaine, 3 par jour, 15 par semaine.
Ouais.
C'était basé sur un modèle où est-ce que. Puis il y a une personne avec qui tu t'entretiens dans ton podcast. L'ancien patron de Ducalcol, Hubert Sassy, c'est ça, qui dit que selon les études, selon son graphique, les gens qui consomment de manière faible à modérée ont une espérance de vie supérieure aux gens qui consomment pas du tout et supérieure, évidemment, aux gens qui consomment beaucoup. Mm. C'est comme un genre de sweet spot dans lequel tu veux, entre guillemets, trouver qui serait préférable. Donc, selon ce graphique-là, selon ces études-là, je sais pas d'où les données viennent, ça serait du consommation quelques verres par semaine, mettons, qui serait le best. Mais de plus en plus, on dirait, les nouvelles données qui sortent, en tout cas, souvent, mettons justement dans le podcast de Huberman, qui fait la liste exhaustive, en fait, des effets de l'alcool sur la santé, puis de l'effet même de un verre va avoir sur les qualités de ton sommeil directement après, quelques verres par semaine sur... comment tu vas sécréter des hormones de stress, sur la dépression, tout ça. Puis, tu sais, puis lui, vraiment, son message, c'est de dire le best, c'est zéro. Le best, c'est pas 2-3, le best, c'est zéro. 2-3, c'est pire que zéro, mais c'est mieux que 6-7, etc. Puis, tu sais, c'est plus tu bois, pire c'est, moins tu bois, mieux c'est. Fait que là, on n'est plus dans une coupe, c'est correct, c'est même bon. C'est le moins possible. Puis si tu peux, zéro, c'est le best. Fait que là, si on va là, puis si on accepte que c'est ces données-là qui sont, mettons, scientifiquement approuvées par la majorité, mettons, puis que c'est ça les vraies, les bonnes données, ça change complètement.
Ben
ça
oui.
change tout, là. Parce que là, on peut plus se ranger derrière la modération, c'est good.
Non.
C'est l'abstinence a bien meilleur goût, puis sinon, au pire, la modération, tu sais.
Ouais, mais tu le résumes bien. Si on est rendu là, parce que dans le fond, c'est un fait, là. Rendu là, on est dans les faits, là.
C'est ça.
Les anciennes recommandations datent de 2011 avec la littérature scientifique de ces années-là, où ce qu'on avait moins creusé, cancer, tout ça. Là, aujourd'hui, là, on sait que c'est en cause de tout ça. Fait que c'est comme si tu prends, je reviens avec mon exemple de fumeur, tu dis, fume une clope, c'est moins pire que d'en fumer 8, c'est sûr. Fait que, tu sais, moins, c'est mieux. Mais si tu fumes une clope, c'est pas bon pareil, là. Ça reste une cigarette pleine de cochonneries. Mais c'est moins pire que si t'en fumes 24. Ben, c'est la même affaire. L'alcool, c'est pas bon. Là ils ont statué ça. Maintenant, tu disais, si on est rendu à l'admettre, ben c'est ça. On est rendu, nous autres, à se demander si on veut, on veut aller plus loin dans des campagnes, dans les shows de télé. Mais là, au moins, on met ça, c'est établi. C'est des études quand même assez sérieuses, comme de Lancet, tout ça. Puis évidemment, tu vas tout le temps trouver quelqu'un qui sera pas d'accord avec ça, un médecin. Puis il y en avait un récemment qui était comme, oui, mais c'est prouvé que c'est bon pour le cœur. Ben oui, il a sûrement raison. Il s'est appuyé sur plein d'études qui dit qu'un verre de rouge, c'est pas mauvais pour le cœur. Fine, mais c'est peut-être bon pour le cœur, mais c'est pas bon pour ça, c'est pas bon pour le foie, c'est pas bon pour plein d'autres affaires. Fait que, tu sais, je veux dire, ça s'annule à quelque part. Fait que, tu sais, au moins, la communauté scientifique s'entend pour dire l'alcool, c'est pas bon pour ta santé, point. Mm-hmm. Fait que ça, c'est la nouvelle réalité d'aujourd'hui. Ouais. C'était le cas avant, mais on n'en faisait pas état tant que ça. Je dis pas qu'on le cachait, mais on n'était pas assez avancé. Maintenant, une fois qu'on a établi ça, ben, rendu là, les gens, ils sont quand même assez libres de faire ce qu'ils veulent en toute connaissance de cause. Mais je suis content, moi, qu'on soit sorti d'un chiffre de dire entre ça puis ça, c'est correct. Mais quand tu y repenses deux secondes, c'est n'importe quoi. Là. C'est comme. Il n'y a pas de bonne consommation sécuritaire pour la santé ou bonne pour la santé. T'sais, tu bois, c'est pas bon, là, de l'alcool, là, pour ta santé. Ouais, point.
Oh yeah. Nikki, on est rendu au segment Le choix de Nikki.
Comme à chaque année.
Fait que là, on a fait nos choix. PH a fait ses choix. Moi, j'ai fait mes choix. Puis là, toi, t'as fait un choix.
Ouais,
Explique-nous, c'est quoi puis pourquoi.
Moi, c'était le podcast avec Paul Saint-Pierre Plamondon.
OK.
Puis SPP.
Puis SPP.
Puis la raison, un peu, je trouve, dans la même veine que le podcast de Fadi. Je trouve que c'est un podcast qui est venu apporter des nuances, genre, sur certaines affaires, tu sais. Puis il a un peu parlé justement de la gauche qui est comme très présente, genre, sur les médias sociaux, puis tout ça. Puis je trouve aussi que le PQ a un peu à redorer son image, tu sais. Pour moi, le PQ, c'était comme un parti qui était pas mort, mais qui était vraiment en déclin, tu sais.
Ouais.
Puis Québec solidaire, justement, qui montait comme ça. Puis juste d'entendre parler ce gars-là, en fait, genre, je trouve tellement qu'il fait de la politique nouvelle dans le sens qu'il est vraiment juste en train de présenter ses idées concrètement, puis de dire, expliquer, voici pourquoi moi je pense comme ça, puis voici pourquoi, tu sais, mettons, il a beaucoup parlé de Roxham, puis de, tu sais, mettons, juste l'accueil, genre, d'immigrants, genre, ce genre de trucs-là, tu sais, puis souvent, en fait, quand on arrive dans ces débats-là, genre, tu fais un peu associer, genre...
Ça devient ultra émotif, puis là, si t'es contre le fait que des gens qui passent par le chemin Roxham, t'es raciste, parce que c'est des gens qui ont besoin d'aide souvent, nanana. Puis là, lui, t'es comme, ouais, mais t'sais, en même temps, je veux dire, on n'a pas le choix de, comme, contrôler. Ça peut pas être le free-for-all, tu sais, parce que c'est lui qui disait, si on tolère ça, ben dans le fond, c'est comme... l'équivalent qu'il n'y a pas de frontières, finalement. Puis genre, on peut pas juste faire ça.
Puis les services publics tombent après ça aussi, là, tu sais.
Puis, tu sais, ces arguments étaient bons. Moi, j'ai reçu des messages de gens qui ont entendu ça puis qui étaient complètement scandalisés. Pourtant, je trouve pas que c'est une position extrême de dire, ben, on met des frontières avec des... avec un certain contrôle pour une raison. Puis là, il y a comme une anomalie dans le système. Je trouve pas que c'est extrême de dire, genre, il devrait pas avoir d'anomalie, puis on devrait juste, comme, suivre les règles partout, là, tu sais.
Ce qu'il disait lui-même, c'est que c'est quand même très radical de juste ouvrir tes frontières complètement, genre, comme
ben, c'est qu'aucun pays qui le fait.
Ça a pas de sens, tu sais. Non, tu sais, tous tes services publics tombent au complet, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça, c'est un podcast qui m'a... Qui m'a comme redonné, genre, le goût de suivre le PQ, genre, puis qui m'a... C'est ça, tu sais, j'étais vraiment plus Québec solidaire, je pense, dans les dernières années et tout, puis je pense vraiment que c'est le bon gars, genre, pour relancer un peu le...
Ben, je pense que t'es vraiment pas tout seul dans ton cas, parce que si on check les sondages, ce temps-ci, genre, le PQ est en, avance. Ouais. Genre un parti que tout le monde croyait mort et enterré, genre il y a vraiment pas longtemps, mettons.
Ouais.
C'est quand même fou, là. Ils ont vraiment passé proche du fond, là.
Ouais.
De genre, du point que moi, j'étais comme, c'est terminé cette histoire-là, là. Ça, ouais. Ça a fait son temps, puis...
C'est pire que les libéraux, mettons, en ce moment. Tu sais, les libéraux, on dirait, dans les dernières élections, genre, c'est comme si... Ouais. C'est vraiment plus le même parti, là, dans le sens que c'est comme un parti qui a perdu beaucoup, beaucoup de plumes, tu sais.
Mais ils ont quand même, les libéraux, ils ont tout le temps, je pense, une genre de base vraiment solide, tu sais.
Ouais,
parce que le PQ, c'est comme tout le monde était parti du bateau, tu sais. Tout le monde était parti, les plus à gauche, peut-être les plus jeunes, étaient partis à Québec solidaire, puis les péquistes depuis les premiers jours... Boomer, mettons, là, il était tout parti à CAQ, tu sais.
Ouais,
puis là, tu vois que en ce moment, avec justement, là, tu sais, la CAQ qui vit pas ses meilleurs, ses jours les plus glorieux, là, mettons, là, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont écœurés après pour plusieurs raisons, qui retournent au PQ. Puis même de QS, là, je regardais tantôt, je regardais le podcast, puis j'étais surpris, parce que tu sais, les podcasts, on les drop, puis. Le podcast qui est sorti il y a 8 mois, c'est rare que je retourne voir il est rendu à combien de views puis combien d'ici de ça. Mais là, tantôt, je le recheckais parce que je savais qu'on en parlait. Puis il y a vraiment comme eu une progression continue, genre. Là, il est rendu à 25 000, ce qui est pour nous quand même beaucoup sur YouTube.
300 commentaires, c'est énorme.
Sur YouTube. Puis là, je parle pas en audio parce qu'en audio, c'est plus. Mais sur YouTube, puis 300 commentaires de monde qui, clairement, quand je regarde les commentaires, ils nous découvrent, là, tu sais, dans le sens qu'ils sont tombés là-dessus probablement parce qu'ils aiment la personne, puis là, ils ont vu ça dans leur, dans leur suggestion YouTube, puis des gens qui commentaient, puis qui soit des gens qui disaient, moi, j'ai tout le temps, tu sais, je suis parti du PQ, mais là, Paul Saint-Pierre Plamondon me donne envie de revenir, ou de QS, même affaire, tu sais, puis tu sais, c'est vraiment, je pense, de marquer... Dans la campagne, ça a comme pas porté fruit tout de suite dans la dernière campagne électorale, là, tu sais.
Ouais.
Ou est-ce que c'était de loin le plus nuancé, puis le moins comme dans les attaques, puis le moins agressif, puis le monde a vraiment aimé ça, puis ça a pas comme porté fruit. Ben, ça, ils ont fait une bonne campagne, mais là, on dirait que c'est là que, comme, là, on dirait que le monde est tanné des alternatives, ben, des autres partis, puis genre, décide de revenir à ce parti-là qui ont probablement déjà été...
Puis ça paraît que c'est un homme extrêmement intelligent aussi, là, tu sais, ça paraît que c'est ça, c'est le genre de gars un peu comme Fadi, genre, qui a comme une présence, genre, puis il fait juste parler, puis il a un ton super doux, super posé, mais comme il...
Mais c'est ça, mais tu sais, comme... C'est quelqu'un que tu peux pas coincer, là, dans le sens que, peu importe la question qu'on lui aurait posée, je veux dire, il est solide, il connaît ses affaires. Je pense pas que tu te ramasses chef d'un parti comme ça, aussi jeune aussi, par hasard, là, tu sais, il est vraiment...
Ça m'a surpris aussi à quel point ça a l'air exigeant, man, genre... Il avait de l'air
brûlé. Il est arrivé avec son café, genre, extra, extra large de chez Tim, genre, le plus grand format que tu peux avoir. Il était comme, alright, ok, les gars, on y va, mais genre... Tu vois qu'il y a des grosses journées. Là.
Ça doit être extrêmement demandant, man. C'est psychologiquement aussi juste. C'est tout le temps des grosses réflexions, tout le temps, genre des grosses discussions avec tout le monde. C'est quand même.
Ouais, puis tu sais, il incarne quelque chose. Tu sais, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui incarne ses idées de manière assumée. Là, c'est comme, il n'est pas gêné de parler d'indépendance. Il en parle fièrement. T'sais, c'est comme, il se cache pas. Puis c'est pas comme l'indépendance, faut pas en parler trop parce que c'est pas en mode. Non, c'est comme, lui, il dit ses idées. Puis que ça plaise ou ça déplaise. Mais je pense que ce qui plaît, en fait, c'est quelqu'un qui, justement, t'sais, qui assume ses idées puis qui a pas peur de...
Exact.
Fait que...
Puis même dans le dernier débat, t'sais, quand il était d'accord avec... un opposant, il disait, là, tu sais, il disait, nous autres, on se place, nous autres aussi, on est en faveur de telle mesure, tu sais, carrément.
C'est quand même rare. Puis tu sais, on avait fait des podcasts parce qu'on analysait les plateformes des partis, là, tu sais, avec, je me souviens plus de son nom, malheureusement, là, mais tu sais, l'an passé, puis, tu sais, sur bien des affaires, tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, on se fait des idées un peu idéologiques de comme, des partis, puis comme moi je suis vraiment tel parti, mais c'est le parti, je les déteste, nanana. Puis tu sais, au final, sur vraiment bien des affaires, le PQ puis QS, leur plateforme se ressemble vraiment beaucoup. Ouais. C'est plus sur des questions justement identitaires, langue française, immigration, que là, c'est différent.
Ouais.
Mais sur bien des affaires, la santé, éducation, c'est assez proche. Là, ouais. Reste que le PQ, c'est pas un parti de droite. Là,
non, c'est, sûr,
c'est moins à gauche que QS, c'est plus à gauche que la CAQ, qui est même pas si à gauche que ça dans l'absolu. Là, mm. Fait que.
Puis j'ai l'impression aussi que le parti ultime, c'est un peu un parti qui en prend un peu partout, tu sais, justement, tu sais, qui...
Mm-hmm.
Je pense pas que ça sert à grand-chose en politique d'être boqué sur son idée, genre, puis d'avoir exactement, genre, son plan précis comme tel, genre, puis juste comme...
Parce qu'à un moment donné, quelle idée est bonne, là, je veux dire... Je suis d'accord comme toi, là, tu sais, je pense comme toi, c'est comme... Qu'elle soit de gauche, de droite, de ci ou de ça, je veux dire... quand ça marche, ça marche. Puis quand que les chiffres disent que ça marche, quand que les données sont là, c'est comme, faisons ça. Là,
exact.
Je pense qu'on a assez, on a assez parlé. On va aller checker un extrait.
Yes.
Extrait.
Qu'un chef du Parti québécois doit prendre au quotidien, c'est cette conception que si les Québécois décidaient par eux-mêmes, ils ne seraient pas capables d'avoir une économie prospère, ils ne seraient pas capables d'offrir des services. Alors que notre quotidien, c'est que le Canada, comme je vous disais, n'offre pas de services. Mm-hmm. Puis quand il y en offre, comme les passeports, c'est une catastrophe, là. Mais c'est, faut pas sous-estimer plus de 200 ans d'histoire dans notre esprit, dans notre mentalité, là, l'effet de plus de 200 ans d'histoire où est-ce qu'on est sous domination politique, économique. Ça, je pense que ça altère un peu notre façon de voir objectivement quel est notre intérêt. Puis c'est ça mon rôle à ce moment-là. De dire, mais on peut le voir d'une autre manière, puis on peut décider de partir un projet ensemble, écrire une page d'histoire qui offre toutes sortes de possibilités, notamment pour les nations autochtones également.
Mm-hmm.
Parce que ça non plus, ça ne bougera pas sur le Canada, alors que si on déclare notre indépendance, bien, le lendemain matin, on est libre de négocier d'égal à égal avec qui on veut, là. Puis le Canada n'a plus de mots à dire là-dedans. Donc, ça ouvre toutes sortes de possibilités. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, mais je pense aussi que ce serait vraiment un beau moment. Ce serait un moment qui rapprocherait les gens. Puis le fun qu'on aurait à exister internationalement, à avoir une reconnaissance à tous les niveaux, nous donnerait des décennies d'effervescence invraisemblable. Alors qu'en ce moment, c'est morose parce qu'il faut accepter une forme de déclin en se disant ben, « c'est pas si pire ». En fait, ta question, je la résumerais comme celle-là, c'est pas si pire.
Oui, oui.
Puis, mais en fait, c'est ça que Legault dit souvent, c'est pas si pire.
Tu sais, l'urgence de s'émanciper et de faire l'indépendance, à une époque, devait être vraiment. Tu sais, à une époque où est-ce que les élites étaient anglophones, où est-ce qu'il y avait une proportion anglophone encore plus grande qu'aujourd'hui? Au Québec, puis que, tu sais, finalement, les Canadiens français, c'était le petit peuple, le petit, puis qu'un. Quand t'es dans la misère, l'urgence de l'affaire, de faire ce mouvement indépendantiste-là, il était urgent, finalement. Tandis qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, j'ai l'impression, qui grandissent à Montréal, francophones, mais qui vivent dans un monde de plus en plus multiculturel, je sais pas à quel point... Puis là, c'est pas mes convictions à moi, mais je me dis, comment lui faire... voir l'avantage de l'indépendance, finalement.
Ben, par exemple, on envoie plusieurs milliards de nos impôts en cadeau à des pétrolières de l'Alberta au lieu de mettre cet argent-là dans des entreprises québécoises qui permettraient de transformer notre économie pour être zéro émission. C'est ça, le Canada. Ottawa est infiltré par le lobby pétrolier, que ce soit conservateur ou libéral. Là. C'est mur à mur. Je pense que ces jeunes-là aimeraient ça qu'on ait une voix à l'ONU puis qu'on fasse de la diplomatie en fonction de ce qu'on pense et la chose juste à faire à l'international.
Mm-hmm.
Je pense qu'on triperait à gagner une médaille olympique au hockey ou dans d'autres domaines. Puis bon, ça demeure en termes d'urgence la période, là, les 5-10 dernières années, où on a mesuré la chute la plus rapide du français qu'on n'a jamais mesurée depuis très longtemps. Là, je pense qu'il faut voir la fin du 19e siècle pour voir ce genre de situation-là. Là. Donc, oui, il y a urgence sur le plan linguistique et culturel parce que le Canada, au lieu de encourager une identité québécoise partagée au-delà de nos différences. Évidemment, on a des différences, puis tant mieux si les gens ont plusieurs bagages culturels, mmh. qui ont de la culture, qui ont des connaissances. Mais au lieu de dire on est tous Québécois, on est tous dans le même bateau, puis on est capable de se rassembler parce qu'on est tous Québécois, le Canada encourage, puis c'est très identitaire. Souvent, on taxe le PQ d'être identitaire. Mmh. L'identité du PQ, c'est qu'on est tous Québécois et qu'on a un destin commun. L'identité canadienne, qui est reprise dans une certaine mesure par QS, en fait, pas dans une certaine mesure, largement, c'est très identitaire, mais c'est de dire l'identité, c'est un groupe ethnoculturel, un groupe religieux, un groupe d'âge, une génération contre une autre, un groupe, n'importe quelle façon de diviser les gens en sous-groupes, c'est de dire c'est ça ton identité, puis méfie-toi de l'identité québécoise. Mais pour le tissu social québécois, c'est pas sain, ça. Puis, il y a une partie où est-ce que je pense que c'est facile de s'entendre que tu veux pas que des groupes soient discriminés, mm-hmm. puis tu veux que des groupes soient valorisés dans ce qu'ils ont à apporter. Mais moi, je pense que ça doit quand même se faire dans une perspective où est-ce qu'il y a un moment où on est tous au même endroit, mm-hmm. puis on se reconnaît comme étant tous Québécois. Mais ça, c'est très découragé par le Canada. Et à l'Assemblée nationale, c'est relayé par le Parti libéral puis Québec solidaire, qui, à mon point de vue, donc, sont beaucoup plus identitaires. Parce qu'ils n'arrêtent pas de parler de l'identité au niveau du genre, au niveau ethno-culturel. Puis rarement, à Québec solidaire, il y a plus d'espace pour des bannières marxistes-léninistes qu'il y en a pour le drapeau du Québec.
All right, on est rendu au segment du choix de Mathilde. Alors, Mathilde, t'as fait un choix. Dis-moi c'est quoi, puis explique-moi pourquoi.
OK. Moi, j'ai choisi les chambres rouges.
OK.
Ouais. Je sens un jugement. T'as pas l'air d'accord.
Non, je sais pas que je suis pas d'accord. Non, je suis
c'est
d'accord.
Pas, c'est pas assez un bon épisode pour être mon préféré.
Non. Okay. Ben non, mais moi, c'est un bon épisode. Je suis peut-être juste vu que, tu sais, comme je suis émotionnellement impliqué ouais. dans cet épisode-là, peut-être que ça me gêne. Je sais pas.
Ah, OK. Je comprends. Mais non, je l'ai beaucoup aimé. Mais moi, j'ai étudié en cinéma.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que avoir la pensée derrière un film,
ouais.
Toute l'affaire behind the scene, ça me passionne. Là. Fait ouais, que ouais. ça, j'ai full aimé ça.
Ouais.
Puis il y a aussi l'expérience là, qui est venue avec de j'ai écouté l'épisode avant de voir le film.
Ouais.
Parce qu'il fallait que je fasse les extraits. Puis ouais. le film était même pas sorti. Fait ouais. que tu sais, j'ai tout eu ça. Puis en plus, dans l'épisode, vous dites écoutez pas. Le podcast,
ouais,
si vous n'avez pas vu le film.
Oui, oui. On a une technique marketing qui fonctionne vraiment. Écoutez pas ça. Écoutez surtout pas ça.
Faites pause. Revenez dans une semaine.
ouais. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu l'avais pas vu. Ça, fait que comment que ça a changé ton appréciation du film?
C'est ça. En plus, j'ai vu dans les commentaires qu'il y a quelqu'un qui a dit « Ah, je me suis fait spoiler. » Mais pas en tout, là. Moi, on je me suis pas fait spoiler.
On a comme essayé de pas trop spoiler, mais on dirait que plus on parle à un moment donné, plus c'est tough de comme parler de quelque chose, mais sans en parler, là, tu sais.
Ben, soit je suis niaiseuse, soit j'ai vraiment pas compris le ouais, ouais. punch. Là. Quand que j'écoutais le film, c'était la première fois que je comprenais ce qui ouais. se passait.
Puis quand t'as écouté le podcast, puis est-ce que c'était comme abstrait pour quelqu'un qui l'avait pas vu ou t'étais capable quand même de comme c'est-tu intéressant?
C'était intéressant, mais c'est ça. Après ça, j'ai vu le film. Puis là, j'étais capable de faire 1+1, puis j'aimais ça, avoir justement la pensée derrière. Comme ça, l'a vraiment ajouté à mon expérience de voir le film. Puis après ça, j'ai réécouté l'épisode avec mon père. Puis j'ai vu avec le film avec mon père. Ouais.
Ton père, c'est-tu un geek de cinéma aussi?
Oui, ouais.
Ah ouais?
Ouais. Comme c'est la personne avec qui je vais au cinéma régulièrement. Là.
C'est bien nice.
Ouais. Fait que, puis là, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, hey, crème, mais faut qu'on écoute l'épisode. Là. Tu vas comprendre plein d'affaires. Puis lui, c'est pas quelqu'un qui écoute des podcasts non plus. Là. Fait que,
ouais.
Fait que là, c'était la deuxième fois que je l'écoutais. Puis j'ai encore pu faire 1+1 une autre fois.
Ouais, ouais, ouais. Mais, t'as aimé ça, le film?
Ouais, vraiment.
Ah, cool.
Vraiment. Mais même plein de monde que je t'ai mis de l'école en cinéma,
ouais.
tout le monde a écrit dans leur story, là, du monde qui font jamais des stories, là,
ouais.
qui mettent la photo du film et qui disent hey, « un film que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un aussi bon film québécois, mettons. »
Malade. Ah, ben, je suis content pour
pour ton frère.
Pour mon frère, puis pour tout, là, toute l'équipe. Là.
Ouais. Mais la musique aussi, elle ajoutait beaucoup. Là.
Merci.
C'était vraiment... au cinéma, surtout, là, je sais pas à la maison comment que ça serait, là, mais au cinéma, là, c'était... J'avais pas le goût de sortir là, de la salle. Là, comme ouais. Je pensais que j'allais me faire sauter dessus.
C'est ça qu'on veut. Là. Vous que soyez terrifiés que vous ne sortiez plus de chez vous.
Ouais. Mais tu sais, en plus, des films d'horreur, là,
ouais.
C'est juste la musique. Là. J'ai déjà écouté un film d'horreur, pas de son, parce que c'était drôle, puis... C'était pas bon, là. Tu sais, ça faisait ouais. Pas peur, là. Puis pourtant.
Ouais, la musique, ça joue beaucoup, là. Ça joue vraiment beaucoup. Mais c'est pour ça que, comme c'était un. Que c'était un défi aussi. Ben, aussi le fun, en fait. Puis une opportunité de, comme, faire de la musique, mais qui est pas juste un petit tapis fond que tu mm-hmm. remarques pas trop, là. C'est comme. Quand il y a de la musique, il y a de la musique. Là.
Ouais,
c'est comme.
Ouais.
Ta remarque, là, elle est là, là.
Ouais.
Fait que, genre, c'est vraiment. Une belle opportunité pour un compositeur de comme ouais. Faire de quoi qui est genre qui te rentre dedans là, tu sais.
Puis parce que là avant de choisir là, j'ai comme réécouté un petit peu les épisodes.
Ouais.
Puis Pilou refaire ouais. Sa vie en région là. Est-ce ouais. Que tu avais déjà composé la musique parce que vous en parlez un peu.
Ouais.
Mais tu mentionnes jamais
Je pense qu'on l'avait reçu Ouais, ouais, je me souviens parce que j'ai réécouté un peu aussi Pilou parce que je voulais. Il était dans mes.
Ouais, c'était un bon épisode aussi.
Ouais, c'était vraiment un bon épisode. Mais d'ailleurs, on va faire des honorable mentions, des mentions honorables à la fin.
Okay.
Juste comme. Parce que, tu sais, on pourrait toutes les nommer. Là, ouais. Sont, genre, tous les podcasts sont nice. Mais Pilou, il était dans les top aussi, là, vraiment. Là, c'est un gars que. On va en parler un peu. Là, que tu sais, j'étais allé en studio chez eux, je l'ai rencontré. Genre, c'est fou tout ce gars-là, tout ce que ce gars-là fait, genre tout ce qu'il accomplit, genre comment il a comme amené une communauté d'artistes dans un petit village, Saint-Adrien.
Mm-hmm.
Puis genre, tu parles avec, puis t'as le goût de comme.
Changer ta vie.
Changer ta vie, puis genre, partir des projets, puis genre. Ouais. Genre t'impliquer dans ta communauté puis genre aller en région puis comme créer genre une c'est ça là genre une genre de communauté d'artistes entrepreneurs
ouais.
c'est vraiment puis lui c'est ça il fait vraiment beaucoup ça là tu sais il fait mm-hmm. plein d'affaires mais dont la musique de film mais tu sais lui il en fait c'est ça là tu sais on parlait dans lui il peut faire un film en une semaine là, ou en trois
ah,
jours
ouais.
Là, moi ça m'a pris deux mois puis j'étais comme genre ouf, c'était tough c'était short là.
Ok mais lui comment il fait pour faire ça en une semaine c'est-tu genre c'est un surhumain ou
c'est un peu un surhumain je pense que c'est vraiment un ultra talentueux
okay.
Ultra rapide tu sais puis il l'expliquait dans le podcast il a fait beaucoup d'impro musicale il a fait beaucoup de jam il a fait mm-hmm. beaucoup de fait qu'il est extrêmement rapide pour dans tous les styles de comme fait que tu sais lui il me disait sa technique c'est comme juste il écoute le film au piano genre puis quand il sent qu'il a besoin de musique ben là il joue de quoi puis là puis là fait que là il comme compose au piano de, genre en real time tu sais
mm-hmm.
puis là tu sais plus puis il trouve des trucs puis ça il les retravaille puis après ça il rajoute des instruments puis il joue plein d'instruments lui-même fait que genre il est capable de faire ça vraiment efficacement là.
Puis toi comment que t'as fait pour les chambres rouges
ben moi ça a été moi j'ai fait beaucoup de la musique qui a été faite dans mon petit local juste à côté d'ici
ah ouais?
Le petit local de 10 pieds par 10 pieds là, avec un petit clavier et une guitare j'ai composé la manger de la musique genre justement là tu sais en faisant comme dans le laptop avec avec des sons dans l'ordi ou avec genre ma guide tu sais puis là fait que là j'avais fait comme un peu un template de comme la musique, puis après ça, on est allé dans un vrai studio, puis là, on a fait des cordes, des drums, des pianos, tu sais, puis là, enregistrer des vrais instruments dans un vrai studio pour que ça sonne,
okay.
Que ça sonne mieux, là, mais...
Puis ton frère, il était-tu là avec toi pour le faire, ou c'était vraiment...
Il était pas là, mais il était très impliqué, dans le okay. sens que, tu sais... Du début du processus, c'était pas juste ah, fais-moi de la musique, puis mm-hmm. on verra si j'aime ça. T'sais, c'était comme. Il y avait déjà, tu sais, en partant, un genre de concept. Il y avait. Tu sais, mon frère, c'est un très grand geek de cinéma, mais aussi de musique, tu sais. Fait que.
Okay.
Il y a vraiment, genre, une énorme culture, tu sais, comme. Il écoute plus de musique que moi, puis.
Ah ouais.
Puis, moi, je fais ça dans la vie, là,
ouais.
Mais c'est ça, tu sais, fait qu'il y avait déjà des playlists d'inspiration, il y avait déjà de la musique que lui avait mis dans son film aux endroits où est-ce qu'il pensait qu'il voulait la musique, avec qui mettait un peu la vibe qu'il voulait, mais tu sais, mais c'était quand même un peu disparate parce que c'était plein d'affaires différentes, fait mm-hmm. qu'il y avait pas comme de genre d'unité de son global du truc, là. Fait que là, c'était mm-hmm. un peu ça, de comme m'inspirer un peu de ses inspirations, de ce qu'il avait mis dans le film, puis de la vibe du film, de il y a un peu tu sais, il y a un peu un genre de des genres de symboles un peu médiéval, des fois là, elle attrape un peu genre médiéval, puis comme son assistante vocale qui est comme Guenièvre, ouais. qui est comme genre dans les Chevalier de la Table Ronde, là, tu sais, mm-hmm. un personnage. Puis, en tout cas, fait que là, d'essayer d'avoir un peu de quoi qui fait médiéval, mais en même temps, il y a le côté techno du film, tu sais, genre crypto-monnaie, genre
ouais,
nanana,
super moderne,
dark là. Web. Fait que là, à essayer d'avoir de quoi de la musique qui reflète ça aussi, puis avoir de quoi qui fait un peu. Parce qu'il y avait des influences un peu quasiment métal, tu sais, genre.
Ouais, c'est vrai.
Fait que là,
ouais.
c'était comme, OK, ben, prendre ces trois affaires-là, essayer de faire de quoi qui a ces trois éléments-là en même temps, mettons. Fait que là, c'était ça le défi, en fait, là, tu sais.
Ouais, t'as-tu capoté quand il t'a expliqué ça au début ou t'es.
Non, j'étais comme, ben, tu sais, en fait, c'était un échange, là, on en jasait, okay. puis j'étais comme, yeah, je pense que c'est possible. Là. J'étais comme, je l'entendais dans ma tête un peu, là, tu sais.
Ah ouais. Okay.
Fait que là, ouais, après ça, ça a été de le faire. Mais ça a été un gros 2 mois que j'étais là-dedans quasiment tout le temps, là, tu sais.
Mm. Ouais. T'as-tu réécouté le film en essayant de te détacher de. Tu sais, j'imagine que tu l'as écouté plein de fois, là.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais. T'as-tu écouté une dernière fois pour, comme, enjoy le film pour de vrai ou. Pas été capable.
Oui, là, je suis capable d'enjoy le film. La dernière fois que je l'ai vu, c'est quand? La dernière fois que je l'ai vu, j'étais dans une salle, puis le gars à côté de moi, on dirait que là, j'essaie tout le temps de filer la vibe
oui.
dans la salle, tu sais. Ouais. C'est comme le monde aime tout ça, le monde sont comment. Puis le gars à côté de moi, il réagissait vraiment fortement, mais je sais pas si c'était positivement, négativement. Puis là, fait que là, j'essayais juste de le saisir tout le film. Fait que, à fond, okay. aucunement profité de mon expérience.
Mais comment... c'était quoi ses réactions?
Non, mais c'était comme genre... je sais pas, il réagissait, c'est comme, mettons, genre... il s'exclamait, mais c'était-tu genre... « Oh, c'est à chier » ou « Ah, ouais. oh, c'est malade », genre.
OK, genre.
Je le savais pas, tu sais. Mais probablement, genre, ça prendrait qu'il trouvait ça à chier. Hein.
Mm-hmm.
Mais c'est ça. Mais je pense que là, je suis capable de l'écouter sans genre être scénaire, puis genre
penser à tous les moindres détails de.
Ouais. Ouais. L'autre jour, j'ai réécouté la musique un peu parce que ça se peut que je fasse comme un genre de show dans un festival de cinéma, une genre de prestation de la musique du film, mais en live, genre.
Ah, c'est donc mais cool.
Fait que là, je réécoutais comme ça pour voir comme qu'est-ce qu'on va faire. Mm-hmm. Comment qu'on va adapter ça. Mettons trois musiciens jouer cette musique-là puis que ça marche. Puis là, je réécoutais ça. Tu sais, souvent, c'est comme, tu sais, les podcasts ou la musique que je sors, une fois que c'est sorti, c'est comme, c'est sorti, puis je travaille sur la prochaine affaire, ouais. tu sais. Fait que, tu sais, j'avais pas réécouté vraiment. Puis là, je réécoute ça, puis je suis comme, ouais, c'est nice. C'est
nice. Bon job, ça.
C'est comme, non, c'est ça, tu sais, mais c'est ça. Vaut mieux ça que réécouter faire. Ouais, non, je l'ai échappé. Non, mais c'est ça.
Ben, c'est parce qu'il va tout le temps avoir des affaires à faire. Là. Comme, si tu penses tout le temps dans ce mindset-là, là, il va toujours avoir des choses que tu peux modifier. Là. Il y a jamais de. Ben, je sais pas. Là, mais...
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, puis justement, des projets de même, t'as pas le choix d'aller vite.
Ouais.
Parce que t'as un deadline, puis c'est comme.
Mm-hmm.
Faut que tu y arrives. Là. Ouais. Tu peux pas ne pas y arriver. Fait que genre.
Tu peux pas te permettre de bucker sur des détails.
C'est comme, t'as une idée, tu fonces, t'as fait. Puis, tu sais, il y a des trucs même que, genre, tu sais, qui a été fait, je sais pas, une take de Git, d'effet weird qui. Avec des délais, en tout cas, peu importe, mais genre, juste des effets Git que je l'ai fait une fois. Ok, c'est ça. Puis après ça, on passe à l'autre chose. Puis là, en réécoutant, j'étais comme, hey, j'ai fait ça. Hey, je me souvenais pas que j'avais fait ça. Hein? C'était comme si je l'avais tellement fait vite, puis passé à l'autre appel, que comme, j'étais comme, je l'entendais quasiment pour la première fois, mettons.
Ah ouais, comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait fait. C'est quand même cool.
Hey, on a jasé longtemps, mais c'est correct. On va écouter l'extrait parce que faut pas que les podcasts durent 4 heures non plus.
Ouais.
Fait que ça va être fun de jaser.
Ouais.
Yeah! Bon extrait.
Kid, mais qu'est-ce que tu penses, mettons, Laurie, qu'un personnage comme Clémentine se ramasse là?
Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait quelqu'un comme ça, tu sais, mettons, qui est versus une personne je veux dire, moyenne qui va juste comme suivre ça dans les médias? Versus que là, tu sais, de vouloir prendre part à ce truc-là, être témoin puis essayer de tout faire pour sauver cette personne-là.
Ben, moi, mettons dans mon background que je me suis donné, là, de l'histoire de Clémentine, tu sais, il y a une réplique où elle dit c'est ses yeux. Ses yeux, ils mentent pas.
Mm-hmm. Genre de tristesse derrière les yeux.
Oui. Puis pour moi, ça, c'est qu'elle a un sentiment d'empathie extrême et limite, genre d'appartenance. Puis, ben, c'est drôle, mais ça, je pense, je parlais de ça avec Juliette. Puis on parlait de Maxwell, puis je trouvais, là, peut-être que vous n'avez pas trouvé, mais je trouvais qu'on avait des yeux un peu similaires, genre. Tu sais, comme des yeux super les yeux cernés, bleus, ça, bleu, genre des gros yeux, là, quand même. Puis moi, ça, mettons, ça me servait comme casting, parce que je trouvais que je pouvais peut-être me reconnaître dans ces yeux-là, tu sais, les regarder. Puis je pense que Clémentine, elle croit à son innocence parce qu'elle se dit. C'est comme mes yeux, tu sais. Puis moi, je ferais jamais
ça. Moi, je pourrais pas faire ça.
Puis je pense aussi que souvent, quand on doute genre de l'innocence ou de la culpabilité d'une personne, c'est parce que, puis ça, c'est comme le personnage de Pierre Chagnon le dit au début, êtes-vous capable de dire à 100%
hors de tout doute
que c'est lui qui l'a commis? Puis je pense que juste ça, c'est terrorisant, tu sais, de se dire cette personne-là pourrait être innocente, puis être condamnée à tort. Je pense que juste ça aussi, ça rentre un petit peu dans la motivation de Clémentine à être comme, imagine qu'il est innocent, puis qu'en ce moment, tout le Québec est en train de se mettre contre cette personne-là. Je pense qu'elle prend un petit peu le rôle de sa défendresse.
L'avocat du dimanche qui est là.
C'est ça.
Puis tu sais, il y a tout, si je peux renchérir, c'est super bien dit, Laurie, mais tu sais, il y a toute l'idée. Faut pas y mettre une étiquette, mais tu sais, c'est. Tu sais, es-tu un peu conspi. Tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire? C'est comme, elle est juste mêlée, mais tu sais. C'est puis on a même coupé une réplique où pour la petite histoire des scènes au cimetière. Ben, un bout d'une scène, mais il fallait un peu aider Clémentine.
Ça sur le DVD.
Non, mais c'est parce que, tu sais, comme dans son introduction, elle est là, puis elle parle de la vidéo. On l'a pas vue, elle pourrait être truquée. Il y a des façons de truquer des vidéos, puis ce qui est quand même, tu sais, une position. Puis il faut pas non plus juste sauter dans le bandwagon puis accuser les gens, tu sais, comme au Moyen-Âge, tu sais, je dis bon, bref. Fait ça, ça va, mais plus loin dans cette scène-là, elle parle de comme, ben, tu sais, comme l'alunissage, on sait pas si l'alunissage a été stagé, tout ça, tu sais, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas croire ça, mais là, tout à coup, c'était comme, on est sur une corde raide, puis là, on était juste un poil trop loin, que là, c'est vraiment dur de re-ramener l'humanité de Clémentine. Si tu vas juste un peu trop loin, on juge vite, les gens et donc les personnages dans un film, puis on était comme allé un poil trop loin, puis ensuite, mais,
moi, j'ai on l'a dosé.
Couper ça,
je me rappelle. Justement, ça un peu trop loin.
Mais c'est, tu sais qu'en plus, moi je tourne presque qu'en plan séquence, fait qu'on n'a pas de coverage, puis c'est compliqué de couper des bouts. On a tourné le film genre en 6K, puis le output final du film, il y a moins de résolution, fait qu'on a comme fait une coupe où on zoom in sur l'axe, puis vu que la caméra a assez de résolution, tu sais, comme toi, écoute, pour ceux qui auraient vraiment le film en tête, tu sais, ton personnage Juliette descend les escaliers. Là,
oui,
genre. Mais ça, mettons, c'était la continuité du plan séquence, mais c'est juste genre on a zoomé in sur
l'axe.
On a comme jump cuté plus tard dans la scène en zoomant, qui comme recréer une coupe qui est pas dérangeante.
Que finalement, c'était un plan séquence.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on on a truqué notre plan séquence comme on pouvait. Hein.
All right. Alors, c'était notre best of 2023. 2023 qui est déjà terminé. On commence une nouvelle aventure ensemble. On va être encore avec vous pour 2024. On va continuer de faire des podcasts. On va avoir beaucoup de fun. On va avoir des beaux invités, comme à chaque année. Il y avait quelques mentions honorables que je voulais citer. On a fait, on a nommé 6 à date. On a nommé le Chambre Rouge avec Mathilde, Paul Saint-Pierre Plamondon, Fatih Daguerre, Nicolas Bérubé, Geneviève Janson, Hugo Meunier. Moi, j'en avais d'autres, mais tu sais, si on veut pas que le podcast dure 4 heures, on peut pas tous les nommer, mais rapidement, il y avait le premier podcast qui est sorti de l'année avec Farah Alibé. Qui travaille à la NASA, qui travaille dans l'aérospatiale, qui a envoyé un robot sur Mars. On a parlé d'exploration spatiale, on a parlé de la possibilité de la vie sur Mars. C'était vraiment fascinant, une personne vraiment inspirante avec un parcours atypique, qui fait un métier atypique. Si vous l'avez pas écouté, si vous aimez l'espace, si vous aimez ou juste des personnes hors du commun comme ça, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Le podcast avec Stephen Guilbeault, le ministre de l'Environnement au Canada. Un grand honneur de l'avoir reçu quand même, un honorable ministre sur notre podcast. Quelqu'un qui est vraiment terre à terre, vraiment... t'es super drôle, t'es super gentil. Il est arrivé, on commence un podcast, puis on commence à parler, puis il dit « Ah, je pensais que vous alliez faire vos pubs de rasoir, là, non. » J'étais comme « Ouais, non, ça, on le fait, mais une fois que t'es parti, là, on t'imposera pas ça. » Il dit « Ah, moi, j'étais prêt à en parler, là, tu sais, comment je rase ma barbe, tout ça. » J'étais comme « Ouais, mais les rasoirs, c'est plus pour, tu sais, en dessous de la ceinture. » Il dit « Ah, là, moi, depuis que je suis ministre... » J'ai plus le temps pour ça. C'était de toute beauté. Un grand génie comique. Alors, Stephen Guilbeault, qui moi, je l'ai trouvé tellement, tellement honnête, tellement ouvert, tellement vrai. Même dans les... Tu sais, on lui a pas donné si facile que ça. Ils ont posé des questions un peu difficiles, tu sais, sur des choix controversés du gouvernement au niveau de l'environnement, puis comment il avait vécu ça. Puis il était très ouvert, là. Tu nous a parlé comme... Il y a un projet en particulier, quand ça a été l'annonce, ça a fait un peu, ça a fait beaucoup de vagues en fait. Puis tu sais, ça a été la pire journée de sa vie. Il a reçu des messages de ses anciens collègues de l'époque où il était militant en fait en environnement, des messages de déception. Mais elle nous a expliqué aussi c'est quoi sa réalité, lui, de comme vouloir faire. De son mieux, en fait, au meilleur de ses capacités, de son pouvoir pour l'environnement, mais que des fois, il y a des compromis qu'il n'avait juste pas le choix de faire. C'était vraiment, vraiment intéressant. Fait que je vous recommande Stephen Guilbeault. Sinon, Louis-Jean Cormier, qui pour moi, qui est un grand musicien au Québec, c'est une grande influence. C'est un de nos meilleurs auteurs-compositeurs, musiciens, réalisateurs. C'est un grand communicateur, c'est un grand... Ben, c'est un bon moulin à parole, mais tellement intéressant qu'on aurait pu le laisser parler encore pour 3 heures de plus, puis ça aurait été encore aussi intéressant. Il nous a parlé un peu de tout son cheminement spirituel qu'il a fait. Il a touché le fond à un certain moment, puis c'est lui-même qui nous en a parlé sans même qu'on essaie de gratter le bobo. Mais tu nous dis, quand il est devenu populaire, ça l'a fucké un peu dans la tête, puis ça l'a... Il a fait des décisions probablement de marde, puis il dit que ça l'a... En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, que ça l'a fucké finalement, puis probablement fait des erreurs, probablement fait des choses qu'il regrette, puis il nous a parlé un petit peu de son parcours de se connaître soi-même après ça, d'essayer d'être une meilleure personne, d'essayer de comme faire amende honorable peut-être depuis. Fait que c'était quand même touchant. J'ai trouvé ça beau. Quelqu'un qui est ouvert sur son processus comme ça, puis sa perspective sur la musique, puis Carquois, moi, c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé, que j'aime beaucoup. Puis là, parler de comment le band s'est reformé, tout ça, parce qu'ils viennent de lancer un nouvel album. C'était super podcast aussi. Pilou, j'en ai parlé avec Mathilde. Pilou, un gars aussi qui m'inspire beaucoup. Un gars fascinant. Un gars qui a une intelligence supérieure. Supérieure. Il est supérieur à la moyenne, ça c'est sûr. Fait que c'était les mentions honorables. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là toute cette année. Vous êtes indispensable à tout ça, au Sans Filtre. Si on vous avait pas, le podcast n'existerait pas. Puis on vous remercie d'être toujours là, puis de continuer à nous suivre. Puis on va faire de notre mieux pour faire des bons podcasts intéressants. On va apprendre des affaires, on va rire, on va pleurer, on va se prendre dans nos bras. Bon, il faut que j'arrête, là, je commence à dire n'importe quoi. Mais bref, merci beaucoup, bonne année, puis à l'an prochain.